tout de suite un document Radio Courtoisie, un libre journal de Serge de Bekech du 12 avril 1995. Excellente nuit à tous à l'écoute de Radio Courtoisie, il est 2h. C'est Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez un document Radio Courtoisie, un libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, datant du 12 avril 1995 et diffusé dimanche 10 octobre 2010 de 2h à 5h. Elle a été réalisée par Franck. Exceptionnellement, vous ne pourrez intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Bonsoir à tous. Vous avez remarqué que Victoria est revenue en pleine forme, elle met le ton.
Le ton, je m'applique.
Eh ben, c'est interdit de mettre le ton. Le générique, pas le générique, je sais pas quoi, le truc là, doit être dit d'une façon atone.
Sur le tutu, chapeau pointu.
Voilà, c'est ça, très bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, pour commencer, je dois le préciser, maintenant je vais le faire toutes les semaines. C'est une publicité déguisée, mais c'est assez astucieuse que j'ai trouvé. Je dois dire que le libre journal que vous écoutez, donc libre journal du mercredi de Serge de Bekech, radiophonique, n'a rien à voir avec le libre journal imprimé, celui qui est... Oui, alors vous n'avez pas de micro. Alors pour une fois qu'il se penchait pour causer dans le micro, Franck, s'il vous plaît, donnez-lui un micro. À cet homme-là, il a envie de parler.
Il y a quand même.
Alors du coup, voilà. Ça, vous pouvez dire ce que. Qu'est-ce que vous avez dit, Monsieur Blanza?
Il me semblait avoir entendu dire et même avoir remarqué moi-même que c'est un excellent journal.
Merci, c'est bien. Il est bien. Il vient une fois par semaine. Quand je dis libre journal, voilà, excellent journal. Et puis ensuite, il peut s'en aller. Enfin, il fait ce qu'il veut pour trouver ses chats. Il a des chats en nombre absolument considérable. C'est bien, vous êtes un homme chat. C'est du... Oui, mais j'ai le droit quand même de trahir un peu les secrets les plus intimes de la vie privée, notamment en ce qui concerne la félinité de vos relations. Je ne crains pas de le dire. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire avant?
Vous étiez en train de faire une pub.
Ah oui, j'étais en train de dire effectivement que le libre journal imprimé est autre chose que le libre journal causé.
Et quel est le point commun?
Le titre.
Et moi-même, mais encore,
et moi-même,
ah,
et,
voilà,
et des collaborateurs.
C'est ce qu'il fallait dire.
Et donc, si vous voulez savoir à quel point les choses sont différentes, vous avez la ressource de vous adresser au libre journal de la France courtoise, 139 boulevard de Magenta, il y a beaucoup beaucoup de particules là-dedans, 75 0010 Paris, et on vous enverra un exemplaire et après vous vous abonnerez. Alors les autres points communs, c'est dans les invités de cette émission, où j'invite quand même assez régulièrement des collaborateurs du libre journal imprimé. Ce soir, par exemple, il y a Daniel Raffard de Brienne qui parlera avec nous, et ensuite le professeur Lugan, qui sont des collaborateurs du journal imprimé et des invités du journal causé. Vous voyez comme je suis astucieux, sous des dehors un peu benet, j'ai des astuces comme ça. Bon, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc ne mélangez pas le libre journal du mercredi 61 boulevard Murat et le libre journal de Serge de Bekech et de la France courtoise réunie, Décadère, boulevard Murat 139, Paris 75 0010 Paris. Était-ce assez rusé?
C'était rusé.
Je dois apporter quelques réponses au courrier que j'ai reçu ces temps-ci. Alors, la semaine dernière, j'étais un petit peu gêné parce qu'un auditeur me dit « Qu'est-ce que c'est que cette histoire des Bnei Brit, etc. Je n'en crois pas un mot, et tout, et tout, et tout. » Alors donc, j'ai fait des recherches, et j'ai absolument rien retrouvé, naturellement. Mais, par bonheur, un autre auditeur, qui, lui, tient des archives à jour, m'a envoyé la photocopie de la coupure du Monde du 26 mars 1986, il y a 9 ans. Alors, je vais vous la lire. C'est paru dans Le Monde du 26 mars 1986, donc c'est encore plus pire que si c'était dans le journal officiel. Car Le Monde, c'est le journal officiel, estampillé politiquement correct. Car dans le journal officiel, on trouve n'importe quoi. étant donné que, par exemple, vous avez même, il y avait même un article dans le journal officiel publié sous la forme d'une, de la déclaration d'une association, qui était une association pour la vérité sur les incidents du jardin des jardins de l'observatoire, où le gars qui était un futé avait dit, cette association a pour objet de faire savoir aux Français que, à telle date, dans le jardin de l'observatoire, Monsieur Mitterrand a sauté, a monté un faux attentat, etc., etc. Donc, ça veut dire qu'on peut écrire n'importe quoi. Tandis que dans le monde, ça ne serait pas passé, ça. Dans le monde, il ne passe que des choses qui sont comme dans le journal officiel, c'est aussi officiel que le journal officiel, mais en plus avec l'estampille politically correct. Politiquement correct. Alors donc, le 26 mars 1986, est paru un article intitulé « Inquiétude dans la communauté juive » qui disait la chose suivante. « L'élection de 35 députés du Front National à l'Assemblée Nationale le 16 mars a provoqué des réactions parmi les organisations juives, tout en se félicitant, ouvrez les guillemets, que les élections se soient déroulées conformément aux règles démocratiques prévues par la Constitution de notre pays et que les électeurs se soient prononcés dans une très forte proportion pour des partis politiques qui ont sur le plan des droits de l'homme des conceptions proches de celles qu'ils défendent. » Fermez les guillemets. Le Conseil représentatif des institutions juives de France, CRIF, exprime le regret que, ouvrez les guillemets, des électeurs aient égaré leur vote en faveur d'un parti qui a introduit dans la vie politique française des concepts de discrimination dont le simplisme est certainement trompeur et relève des facteurs de division et de haine, fermez les guillemets. Dans le mensuel L'Arche, je cite toujours Le Monde, numéro d'avril, M. Roger Ascott, rédacteur en chef, écrit, deux points, ouvrez les guillemets, le danger est là. Nous nous refusons, à l'heure qu'il est, à rechercher des coupables d'une situation nouvelle qui écorne la France, qui écorne la France. Vous voyez, quand vous enlevez les cornes à quelqu'un. Ça, c'était un commentaire personnel. Qui écorne la France des droits de l'homme. Il importe que les hommes de bonne volonté, et les juifs particulièrement, qui savent que la discrimination conduit fatalement à Auschwitz, se regroupent et pèsent afin que la doctrine sécuritaire marche au pied du racisme, reste isolée, marginalisée. Point, fermé les guillemets. Enfin, les associations B'nai B'rit. Ouvrez les guillemets. Lance un appel à la vigilance, attire l'attention des partis de la nouvelle majorité contre toute tentation de vouloir reprendre le slogan extrémiste sur l'insécurité des idées xénophobes à l'encontre des immigrés. Fermez les guillemets. Et, alors là, écoutez bien parce que c'est important. Et, ouvrez les guillemets. Rappel aux représentants de ces partis leurs engagements pris au cours des forums du B'nai B'rit devant la communauté, déclaration reprise après proclamation des résultats du vote, de ne s'allier en aucun cas au Front National. Donc il s'agit bien d'engagements pris par les partis, par les représentants des partis politiques français, devant une instance internationale maçonnique qui s'appelle les B'nai B'rit, qui est une franc-maçonnerie israélite internationale, de ne s'allier en aucun cas au Front National parti français. C'est-à-dire que vous avez, c'est ce que j'ai dit, moi, ce qui me gêne, c'est pas du tout l'histoire des que ce soit juif ou pas juif, j'en ai vraiment rien à foutre. J'ai combattu l'internationale communiste pendant des années, c'est du même ordre. Vous avez des hommes politiques français, qui ont prêté serment devant une instance supranationale, internationale, de ne jamais s'allier à d'autres hommes politiques français, dûment portés à l'Assemblée nationale par des élections démocratiques. Et ça, je trouve ça inadmissible. Alors, c'est pas une invention de moi, je rappelle que c'est paru dans Le Monde du 26 mars 1986, en toutes lettres. Voilà ce que je voulais dire. Je voulais dire autre chose. Il faut que vous alliez, ne serait-ce que, même si vous n'aimez pas la fête foraine, il y a des gens qui n'aiment pas la fête foraine, il faut quand même aller à la Foire du Trône. Parce que la Foire du Trône, il reste, il siège ou il existe une espèce de citoyen totalement en voie de disparition. C'est le style pionnier du vieil Ouest. C'est des gens qui disent, il faut pas venir m'emmerder parce qu'autrement tu vas avoir des problèmes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous lire. Moi, je suis prudent maintenant, je lis les autres journaux. Alors, je lis tiens, présent, pourquoi pas. Voilà. Le Figaro découvre dans son numéro du 11 avril que les bandes de banlieue ont choisi la Foire du Trône comme terrain privilégié de leurs exactions. Raquettes, menaces, agressions, rixes, etc. Mais les forains, eux, sont bien décidés à ne pas se laisser faire. Au grand dam du journaliste du Figaro, songez que les forains, deux points, ouvrez les guillemets, excédés, bousculent l'ordre établi et menacent désormais de s'en prendre directement aux casseurs. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ce qui s'était déjà passé il y a 2 ou 3 ans, où des bandes de banlieue étaient montées pour se payer la Foire du Trône. Et les forains, la Foire du Trône, c'est leur gagne-pain. C'est là qu'ils vivent. Et ils savent très bien que s'il y a des troubles à l'ordre public, ils sont ruinés, parce que les braves citoyens vont avoir peur de se déplacer, tout simplement, ils ne vont pas aller à la foire, et eux, ils vont être ruinés, parce que c'est des gens qui ont 6 mois par an pour gagner leur vie, qui remboursent des, ce qu'on appelle des métiers, qui valent des millions de francs actuels. Vous avez des métiers qui valent 7, 8 millions. Les grands 8, les choses comme ça, ça vaut des fortunes. En construction, en entretien, en surveillance de sécurité, etc., etc. Donc ces gens-là sont particulièrement attentifs au respect de ce qu'on appelle la vie en société. Il y a des lois pour la vie, pour protéger la vie en société. Et ils entendent ne pas être emmerquinés par n'importe qui. Et il y a 2 ou 3 ans, les donc banlieusards, enfin certains banlieusards, qu'on appelle des jeunes, avaient décidé de se payer la foire du trône. Ils y sont allés et ils se sont fait démolir le faciès à coups de barres de fer et de battes de baseball, à tel point qu'ils ont été obligés de se réfugier dans le commissariat de la foire du trône. Et on a assisté à cette scène absolument incroyable, des policiers chargés de la protection de la foire du trône, prenant la défense des voyous qui s'étaient réfugiés dans le commissariat contre les forains qui voulaient les dissuader de rééditer leurs exploits. Ça a calmé le jeu pendant 2 ans. Pendant 2 ans, il s'est rien passé. Et cette année, dès l'ouverture de la foire du trône, les banlieues ont recommencé. Les jeunes des banlieues ont recommencé. Alors les forains aussi ont recommencé. Ah, pareil, à la barre de fer et à la batte de baseball. Et naturellement, ça a beaucoup, beaucoup déplu aux bandes de jeunes. Il faut dire que ça s'était pas passé très bien, puisque, raconte Caroline Parmentier dans Présent, une jeune foraine a été attaquée. Un de ses voisins s'est interposé, il a été violemment frappé à la nuque, s'est effondré, assommé. Quelques jours auparavant, un autre forain avait reçu un coup de couteau au-dessus du poumon en voulant protéger les siens. Et donc, en apprenant cette agression, les forains se sont mis à plusieurs pour courser les jeunes. Ils en ont attrapé un, ils l'ont corrigé bien, c'est-à-dire que le gars, à mon avis, pendant quelques semaines, il va être retenu dans un établissement de soins généralisés, ce qui va l'empêcher d'aller à la fête. Il a eu sa fête, quoi. Il a, une fois pour toutes, il l'a eu pour plusieurs semaines. Et quand les policiers sont arrivés, ils se sont enfermés. Écoutez bien, c'est Caroline Parmentier qui le raconte. Ils s'enferment avec les voyous de la bande dans le poste de police de la foire. Une trentaine de forains protestent avec colère, armés de manches de pioche et de barres de fer. Nous nous sommes réunis pour protester contre l'insécurité croissante et le manque d'effectifs des forces de l'ordre, explique un membre du comité de la foire du trône. Je ne savais pas qu'il y avait un manège de, comment dit-on, d'euphémisme à la foire du trône. Nous nous sommes réunis pour protester contre l'insécurité croissante. C'est une situation unique qui empire chaque année malgré nos mises en garde. La violence n'est pas particulière à la foire, elle est parisienne, renchérit un autre forain. C'est un endroit de fête où viennent des familles et des enfants qu'il faut protéger. C'est un homme du Moyen-Âge qui parle. Il croit qu'on est dans une société où il faut protéger les familles et les enfants. Il rigole. Nous ne pouvons tolérer qu'ils se fassent agresser sous nos yeux. C'est même des gens qui ne tolèrent pas que d'autres se fassent agresser sous leurs yeux. Enfin, c'est incroyable, quand on est compte. Donc, ils ont déclaré qu'ils avaient affaire à des bandes de racketteurs professionnels descendus des banlieues à la recherche d'un mauvais coup. Et du coup, les forains en colère semblent de moins en moins désireux d'éviter les affrontements, commente le Figaro, car c'est les forains qui devraient être désireux d'éviter les affrontements quand on attaque leur fête foraine. Les policiers redoutent notamment que la traditionnelle solidarité dans la profession favorise la création d'une milice d'autodéfense qui risquerait de faire tourner la foire du trône à la foire d'Empoigne. Vous avez bien compris, ce que redoutent les policiers, c'est pas que les voyous viennent des banlieues pour transformer la foire du trône en cours des miracles où on peut agresser n'importe qui, voler, taper, violer, etc. Non, non, c'est les forains qui, en se défendant, risquent de transformer la foire du trône en foire d'Empoigne. Cela dit, je vous invite à aller quand même à la foire du trône, d'abord parce qu'il y a des métiers ou des manèges, comme on dit, nous qui sommes des civils formidables, et aussi parce que, grâce à cette arriération mentale des forains, les jeunes des banlieues sont moins tentés, voyez, de se faire la fête. Ils préfèrent faire ça entre eux tranquillement. Donc, aller à la foire du trône, ne serait-ce que parce que, je le signale, tous les ans, les forains, je sais que ça ne va pas faire plaisir à tout le monde, mais je m'en bats l'œil, tous les ans, les forains invitent un homme politique dont le nom m'échappe pour l'instant, puisque... Comment il s'appelle déjà? Vous avez une idée?
Non, non,
une espèce de grand blond, enfin je sais plus. Donc il l'invite à l'inauguration de la Foire du Trône, de la fête à Neuneu. Chaque fois qu'il y a une fête, il est invité. Je n'en tirerai pas la conclusion que les forains sont majoritairement partisans du Front National, mais ce que je vois bien, c'est qu'ils sont majoritairement partisans du respect de l'ordre public, et que ça, au moins, c'est quelque chose qui nous rapproche. Voilà. Ah! Cela dit, j'ai lu un journal qui s'appelle Brunois Information. Je l'ai lu. Brunois Info. Vous savez, il faut lire la presse, parce que, bon, Brunois, c'est une ville où il y a 25 000 habitants. Petite ville de banlieue sud-est de Paris, je crois. 25 000 habitants, dont plusieurs Français de souche. Hein. Là, oui, oui. Probablement plusieurs centaines de citoyens français depuis plusieurs générations. Et dans cette ville, tout va bien, puisque il n'y a pas plus de 20 vols de voiture par mois. Hein, alors donc, il n'y a pas de quoi se plaindre. Le commissaire de police de la ville, qui était interrogé par Bruno Information, a trouvé que c'était raisonnable. Il a dit, c'est raisonnable. Donc, rien à dire, 20 vols de voiture pour 25 000 habitants, c'est-à-dire que si vous êtes habitant de Brunois, c'est pas compliqué, vous avez une chance sur 1000 de vous faire piquer de votre voiture tous les mois, et encore, 3 chances sur 1000, parce qu'on considère qu'une voiture, c'est pour 3 personnes, c'est-à-dire, au fond, par an, eh ben, vous avez quand même une trentaine, vous avez une chance sur 3 de vous faire voler votre voiture, et donc tous les 10 ans, normalement, vous pouvez changer de voiture, ça tombe bien, c'est à peu près le temps qu'on considère comme étant la période de validité, si j'ose dire, d'un véhicule à quatre roues. Donc voilà, une petite ville française, banlieusarde, traditionnelle et tout. Et dans cette ville banlieusarde, comme toutes les autres, il y a une maison pour tous. Une maison pour tous, c'est une maison pour tous, quoi, voilà. On ne peut pas dire autre chose.
Comme la France.
C'est un peu comme la France, voilà. La France pour tous, une maison pour tous. Le directeur de la maison pour tous s'appelle Monsieur Ali Bounas, avec deux A, Bounas, ce qui est son strict droit. Et le maire de cette ville-là s'appelle, de Brunois, s'appelle Monsieur Laurent Béteille. Alors Monsieur Laurent Béteille, récemment, a réuni plein de gens, le conseil régional, du conseil général, de la DIREN. Alors, je pense que c'est que la DIREN. Ça doit être la direction de l'éducation nationale ou la direction régionale des nuls, ou je sais pas, enfin, DIREN, quoi, voilà. Des services gestion et patrimoine des espaces verts de la ville, enfin, plein de gens. Et il leur a dit, la chose suivante, il leur a dit, nous allons, à l'instigation de Monsieur Ali Bounas, directeur de la Maison pour tous, lancer une opération unique, qui a suscité l'enthousiasme et l'adhésion de nombreux partenaires. Cette opération sera lancée par la plantation d'un arbre devant la maison pour tous. Un arbre, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est écrit en toutes lettres dans Brunois Information, un arbre de Judée. Voilà. Alors, ce projet a un triple objectif, a dit Monsieur Béteille. Sensibiliser les jeunes et l'ensemble des habitants à l'environnement et à la protection et au respect de l'arbre urbain. Deuxièmement, réaliser un inventaire informatisé sur le nombre, l'espèce et l'état des arbres de la ville. Et enfin, assurer aux jeunes qui bénéficient de cette initiative une formation théorique et pratique des techniques de recensement sur la reconnaissance des arbres et de leur état. Important à Brunois, hein, vous imaginez, c'est pas comme dans la forêt de Troncay. Avec le chêne du maréchal. Non, pardon, chêne de la résistance. Ça a changé depuis. Alors, dans son discours prononcé devant les représentants de l'ONF, du Conseil régional, du Conseil général, de la DIREN, des services de gestion et patrimoine des espaces verts de la ville, le maire devait saluer l'initiative et souligner l'importance du projet pour les 6 jeunes gens. Cette sensibilisation leur permettra peut-être de trouver une voie professionnelle. Par ailleurs, le maire devait insister sur l'intérêt général de cette opération. C'est intéressant pour tout le monde. Donc là, on est au cœur de l'intérêt général. C'est intéressant pour tout le monde. Pour les jeunes qui vont acquérir une formation et pour la ville. Voilà. Donc c'est vraiment intéressant pour tout le monde. Les jeunes et la ville. Après avoir remercié l'ensemble des partenaires, le maire devait tout particulièrement insister sur l'aide de la STRAV. Oui, je vous trouve un peu tous là qui me regardaient. Je ne vous trouve pas enthousiaste. Pourtant, c'est une belle idée. Il a donc remercié la STRAV qui, ouvrez les guillemets, a offert un droit d'accès gratuit sur tout le réseau aux 6 participants. Donc la STRAV, c'est le service des transports urbains de Brunoisville ou je ne sais quoi. Donc, vous avez 6 jeunes gens dont on nous dit les prénoms. Ils s'appellent Foued, Malek, Franck, Mustapha, Hassan. Et puis alors, Frédéric et Franck. On ne sait vraiment pas pourquoi. Et donc, ces jeunes gens, on leur a donné, premièrement, un contrat emploi-solidarité. Donc un salaire, bien clair. Hein. Deuxièmement, un permis de circulation gratuite sur les lignes de la STRAV, qui a offert un droit d'accès gratuit sur tout le réseau aux 6 participants. Troisièmement, un blouson vert. Mais vous avez fini de ricaner.
Et des coutures de mots.
Je ne vous sens pas enthousiaste. Et pourtant, le maire a dit que c'était une opération enthousiasmante qui entraînait l'adhésion de nombreux partenaires. J'ai eu l'impression qu'elle n'entraîne pas votre adhésion. Bon, alors, donc, désormais, pardon, nous dit Bruno Info, si en vous promenant dans la ville, vous rencontrez des jeunes gens arborant un superbe blouson vert sur lequel est écrit 2 points...
Nabucodonosor Rex.
Non, pas tellement. Recensement des arbres urbains de la ville de Brunois. Vous saurez que vous avez affaire à cette brigade de l'environnement pardon, chargée de veiller aux graines. Jeu de mots. Car, pourquoi ont été embauchés avec un contrat emploi solidarité, messieurs Fouet, Frédéric, Malek, Franck, Mustapha et Hassan, je vous le demande, pour compter les arbres de la ville de Brunois. Donc, il y a en France, c'est pas compliqué, il y a 36 000 communes en France. 36 000 communes multipliées par 6, 6 fois 6, 36, 6 fois 3, 18, 216 000 emplois solidarité pour compter les arbres. On peut mettre 216 000... Qu'est-ce que je dis 216 000 ? Oui, 216 000. On peut mettre 216 000 jeunes au travail pour compter les arbres.
Il y avait déjà les inspecteurs des platanes.
Alors, c'est ça. Mais du coup, les inspecteurs des platanes vont se retrouver chaumes-dus. Et donc, il faut intervenir rapidement pour sauver l'emploi des inspecteurs des platanes. Mais moi, je propose qu'on fasse... Les inspecteurs des platanes sont maintenus dans leur fonction. Et les jeunes compteront tous les autres arbres, sauf les platanes. Et ensuite, par le moyen d'une simple addition, on saura exactement combien il y a d'arbres en France. Ensuite, on pourra faire... Alors, je disais au début de cette déclaration que à Brunois, il y avait 20 voitures volées par mois. Je pense qu'on pourrait embaucher une cinquantaine de jeunes, parmi lesquels il y aurait de nombreux Franck et Frédéric, voire même peut-être des Fouettes, des Malek et des Mustapha, qui pourraient compter les voitures. Tous les jours, ils compteraient les voitures, ils iraient au commissariat le soir en disant 25 000 habitants, 8 744 voitures. Et le commissaire dirait, et hier, 8 746. Donc, on a volé 2 voitures aujourd'hui. Vous voyez ? L'essentiel, c'est quand même de faire travailler les jeunes. J'ai peut-être été un peu long sur le sujet, mais Courteline en aurait fait une pièce. Vous voyez ? Tandis que moi, je me contente d'en faire une déclaration de 10 minutes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'on est dans un pays où M. Ali Bounas décide qu'on va embaucher 6 jeunes pour compter les arbres dans une ville de 25 000 habitants. Une ville urbaine, comme son nom l'indique. C'est des fois qu'on vole un arbre dans la nuit. On ne sait pas. Pour faire du feu. Ça n'a pas l'air de vous émouvoir.
Non.
Ça ne vous émeut pas. Non. Qu'on compte les arbres, vous trouvez ça bien.
Non.
N'étonne pas. Ça, c'est bien des réactions d'institutrices. J'aurais dû lui parler du foulard islamique, ça l'aurait fait...
Non plus. Parlez-nous donc, par exemple, dans Présent d'hier, vous l'avez sûrement lu, l'appel au meurtre lancé par le groupe de rappeurs Nick Tamer à l'encontre des militants du Front National.
Je ne parle pas de cette racaille.
Qui dit, non. Avec plaisir, je les shoote dans la terre, dans la tête même à terre. Et même que shooter, ça ne veut pas dire shooter comme je le croyais bêtement, donner des coups de pied. Non, non, ça veut dire tirer avec un revolver de verre.
Ouais. Non mais vous, je sais même
non,
pas.
Alors vous voulez pas en parler.
Bon. C'est de la racaille. On ne parle pas de ça. En revanche, la Tribune a publié un document, un sondage encore, mais tout à fait intéressant, c'est, voilà, les questions posées, c'était, quel est, selon vous, le candidat le plus apte à répondre aux problèmes que nous vous soumettons? Alors, les problèmes, c'est la lutte pour l'emploi, la protection sociale, l'éducation, la lutte contre les inégalités sociales, l'exclusion, les questions de société, la lutte contre la corruption, l'augmentation des salaires, patin couffé, enfin, toute la liste habituelle. Et alors, chacun donc est considéré par les Français comme apte ou pas apte à répondre aux différentes questions. Par exemple, si on prend, je prends au hasard, hein, Monsieur Philippe de Villiers, il y a 1% des Français qu'il considère comme apte à régler le problème de la lutte pour l'emploi, 2% pour la sécurité sociale, 2% pour l'éducation, 2% pour la lutte contre les inégalités sociales, 2% pour les questions de société, 1% pour les salaires, 2% pour l'économie en face. Bon, voilà. Monsieur Jospin, en revanche, vous avez quand même 23% des Français qui le considèrent comme qualifié pour la lutte contre l'emploi. La lutte pour l'emploi, excusez-moi. Oui, c'est un lapsus révélateur, effectivement. Moi, c'est-à-dire que moi, je fais plutôt partie des gens qui pensent que depuis 14 ans, les socialistes ont démontré qu'ils étaient très très forts dans la lutte contre l'emploi. Mais il y a encore 23% de Français qui considèrent que M. Jospin, en tant que socialiste, est parfaitement capable de lutter contre l'emploi. Pour l'emploi, pardon. Il y a également 27% qui considèrent qu'il est capable de lutter contre la prévention, la protection sociale. Il y a 38% le trouvent qualifié pour la formation. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? 23% considèrent qu'il est particulièrement qualifié pour parler des questions de société. Mais seulement 18% qui considèrent qu'il est qualifié pour parler des questions relatives à la lutte contre la corruption. Et pourtant, hein, en tant que socialiste, il pourrait vraiment en parler savamment. Pas lui, à titre personnel peut-être, mais je suis sûr qu'il a des amis qui pourraient en parler avec beaucoup de référence. Etc. Alors l'endroit où il est considéré comme le moins qualifié, c'est sur l'immigration. Vous voyez, c'est de ça que je voulais parler. Car le plus qualifié pour régler les problèmes de l'immigration, hein, candidat le plus apte à répondre aux problèmes posés, immigration, devinez qui ? Le Pen. 36%. Ça, c'est extraordinaire parce que ça démontre que les Français ont des opinions qui sont, comme on dit maintenant, transcourants. Ils voudraient, pour régler le problème de l'immigration, ils pensent. Alors, les autres, c'est Arlette Laguiller, zéro. Ils ne pensent pas du tout qu'elle est qualifiée pour parler du problème de l'immigration. Elle a 0%. Robert Hue, 2%. Jospin, 10%. Dominique Voynet, 0%. D'ailleurs, elle a 0% à peu près partout. On considère qu'elle est inapte à régler l'immense majorité des problèmes qui se présentent aux Français, sauf les problèmes de l'environnement. Balladur, 24% pour l'immigration. Jacques Chirac, 29%. Et quand je disais tout à l'heure que les Français sont des imbéciles, j'avais pas entièrement tort, parce que il y a deux jours, M. Chirac a trouvé, pour résoudre les problèmes de l'immigration, la solution qui consistait à dire que il était tout à fait disposé à aider les intellectuels algériens à venir se réfugier en France. Vous avez entendu son discours? Eh oui, il a dit ça. Les intellectuels, hein, les manuels, on en a assez, c'est plus la peine, ne venez pas, il n'y a plus de place. Mais pour les intellectuels, on en manque. Donc, venez. Eh bien, il y a quand même 29% de Français qui considèrent que M. Chirac, il est apte à résoudre les problèmes de l'immigration. M. Philippe de Villiers, 14%, excusez-moi pour Chirac, j'ai fait un lapsus. M. Philippe de Villiers, 5%, c'est son plus fort score. Hein. Aucun, 5%. Les Français disent, de toute façon, c'est un problème tel que il y a 5% de Français qui disent, quel que soit le chef de l'État, jamais on résoudra ce problème. Donc, c'est pas la peine de se casser. Il faut considérer que c'est perdu d'avance. Et il y a quand même 36% pour Le Pen. Alors, il voudrait Le Pen pour résoudre les problèmes de l'immigration. Il voudrait Chirac pour résoudre les problèmes du développement de l'économie française. T'as qu'à croire. Oui, non, mais ils y croient vraiment. Hein. Il voudrait Balladur pour régler les problèmes de la sécurité des citoyens, Voynet pour l'environnement, Jospin, il leur paraît particulièrement apte à régler les problèmes spécifiques de votre profession ou de votre catégorie sociale. Et quand vous lisez ce document de la Tribune, vous vous apercevez qu'en fait, avec les ministres, avec les candidats aux élections, vous pouvez faire un ministère, ou un gouvernement, comme on disait, formidable, où chacun serait mis en possession du ministère qui correspond à sa spécificité la plus affirmée. Donc, j'anticipe sur ce qu'on dira tout à l'heure quand je recevrai normalement les gens de Jalon qui doivent venir et qui appellent à un meeting unitaire de soutien à tous les candidats. En fait, il faut soutenir tous les candidats. Et pour être sûr que ils pourront tous jouer leur rôle. Mais quand même, moi je serais d'avis que le problème le plus crucial qui se pose aujourd'hui étant le problème de l'immigration, et le score de Jean-Marie Le Pen, 36 points, étant le plus important de tous les scores, toutes catégories confondues, obtenus par tous les candidats dans tous les domaines, c'est lui qui doit être Premier ministre, voire même président de la République. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair. Si.
Là, vous avez été clair, mais tout à l'heure, vous avez été allusif. Vous avez dit qu'il y avait un grand blond invité à la foire du trône, et on nous demande qui est-ce.
Un grand blond avec des chaussures noires, c'est Le Pen, voyons.
Voilà.
Il faut dire
le
nom.
Il fallait le dire. Il l'a dit.
C'est Jean-Marie Le Pen qui a été invité, qui est invité régulièrement aux inaugurations des fêtes foraines, parce qu'il y a des forains qui l'aiment bien. Voilà.
On vous demande aussi de dire comment s'est créée l'association juive dont vous venez de parler, car le nom ressemble à un produit ménager. Vous savez, les Nike, quelque chose, là.
Bon, écoutez, moi, je suis désolé, mais enfin, il faut se tenir au courant de l'actualité. Bnaïbrit, ça fait quand même maintenant 10 ans qu'on en parle, quoi. Bnaï, B-N-A-I, tréma, Brit, B-R-I-T-H. Je sais pourquoi ils appellent ça un produit ménager, mais ça n'a rien à voir avec Scotch Bright. C'est Bnaï Brit, et c'est une, tout simplement une loge maçonnique réservée et qui existe dans le monde entier. Voilà.
On vous demande aussi si vous savez si les compteurs d'arbres savent bien compter.
Alors justement, c'était une question que je m'étais posée. Je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas si les compteurs... Mais vous savez, c'est quand même la capacité de compter, c'est une des choses les plus anciennes dans le génie humain. Même les bergers des hauts plateaux d'Anatolie, il y a 5000 ans, savaient compter. Donc je pense que... Je crois que les beurs de Brunois sont... au moins aussi capable de compter que les bergers d'Anatolie. Sinon, alors, c'est vraiment là, on est confronté à un problème social grave.
Et on nous dit aussi que le maire de Brunois a dû s'inspirer d'un sketch de Fernand Reynaud qui raconte, il y a environ 30 ans, l'histoire d'un Corse qui comptait les arbres à Marseille.
Ah ben, je me souvenais pas de ce sketch-là. Ben voilà, vous voyez comme quoi on n'a jamais rien inventé. C'est tout.
Mais vous vous faites aussi rappeler à l'ordre.
Ah ben, j'espère bien.
Que vous avez dit aux grandes dames. On ne doit pas dire aux grandes dames, on doit dire aux grands dents.
Aux grands dents.
Et on ne dit pas 42, mais 42.
Ah bon, j'ai dit ça?
Ouais, c'est très vilain.
Bon, je me fouetterai sauvagement. Je me donnerai de la discipline ce soir. Voilà. Messieurs, bonsoir. Je reçois Michel Valadier.
Bonsoir.
Et Daniel Raffard de Brienne. Donc 50% de collaborateurs du Libre Journal de la France Courtoise. Michel Valadier n'ayant rien à voir avec ce journal, sinon qu'il lui arrive de le lire peut-être, je suppose.
Oui, occasionnellement.
Pour vous informer, c'est ça. Et donc, le problème posé par vous, c'est celui de l'école, c'est ça. Et de plus que de l'école, du premier cycle secondaire.
C'est cela, oui. Enfin, disons que nous avons peut-être la possibilité ce soir en quelques minutes de revenir sur un problème fondamental, puisque s'il est possible de redresser la situation et si ce pays peut espérer renaître, et dans notre esprit, dans l'esprit de renaissance catholique, il s'agit d'une renaissance des valeurs chrétiennes et nous pensons que seules ces valeurs peuvent donner un squelette suffisant à notre pays pour pouvoir redresser la tête et inverser toutes les tendances néfastes et mauvaises qu'il traverse actuellement. Eh bien, un des aspects, un des piliers les plus importants se trouve une des solutions les plus faciles, si j'ose dire, ou les plus essentielles plutôt, se trouve au niveau de l'école. Avant de laisser Monsieur Raffard de Brienne en dire quelques mots, je vous rappelle cette citation du pape Saint Pie X. On cite souvent le pape Saint Pie X, mais c'est parce que c'est le dernier pape canonisé, c'est le pape du début du siècle, et c'était un pape très très pratique, qui a été curé de paroisse, qui a été vicaire général, qui a été évêque, et qui a vraiment connu à son époque des problèmes pastoraux. Ce n'était pas un apparatchik, comme on pourrait dire maintenant. Et donc, Saint Pie X disait, si j'ai le choix entre construire une église ou construire une école, je construis une école. Donc voilà, je laisserai Monsieur Raphaël Brienne en développer peut-être cette idée, et ensuite je vous parlerai effectivement d'un projet important sur la région parisienne.
Bien, je vais être très bref, puisque le temps nous est compté, comme les arbres de Brunois d'ailleurs.
Oui, et pas par les mêmes.
Pas par les mêmes. En fait, je suis disponible pour faire des conférences sur ce sujet-là, c'est-à-dire sur l'école et les problèmes d'école à notre époque. Et je pars du point de vue tout à fait élémentaire de philosophie naturelle, selon laquelle on est homme, pour être homme, il faut avoir reçu une éducation. Et comme on est élevé dans les familles, il appartient aux familles de donner l'éducation. L'école n'est que le complément qui doit être sous la responsabilité des parents.
Je dirais en plus que c'est vraiment une des grandes impostures de l'époque, c'est d'appeler le ministère chargé de surveiller l'école, ministère de l'éducation nationale, alors que c'est tout au plus un ministère de l'instruction publique, laïque, obligatoire.
Et c'est une autre posture encore plus fondamentale, c'est d'arriver à faire croire qu'il appartient à l'État de s'occuper de l'éducation et de l'instruction des enfants. Ça n'appartient absolument pas à l'État.
Il appartient aux parents d'arracher leurs enfants à l'emprise de l'État.
Il appartient à l'État de faire régner l'ordre, donc de contrôler qu'il ne se passe rien d'illégal et d'immoral dans l'école. Mais la nature, le fonctionnement, les méthodes, les programmes de l'école ne sont absolument pas du domaine de l'État. Mais il se trouve que tous les États totalitaires, même quand ils se disent démocratiques, et on en connaît, ils sont pas très loin de nous.
Je crois même qu'on a les fesses dessus, pratiquement.
Exactement, très exactement. Eh bien, on a la tentation de former les citoyens à leur mesure, et notamment à une époque très maastrichtienne où on est en plein mondialisme, on est en train d'essayer de former des espèces de zombies consommateurs sans faculté de réflexion. Et on a, bon, ça serait le sujet de la conférence que je ne vais pas faire ce soir, bien sûr, on pourrait en reparler, mais toutes les méthodes, tous les programmes sont orientés dans ce sens-là. On a des méthodes de déstructuration de l'intelligence, c'est absolument effrayant, et on remplace des notions absolument élémentaires par des notions totalement fausses et artificielles. Donc il appartient de réagir. Alors, ce que je décris, bien sûr, c'est ce que fait l'enseignement public. Il ne faut pas oublier que l'enseignement qui se dit privé est extrêmement dépendant de l'enseignement public. Bien sûr, il y a des exemples d'écoles qui font ce qu'elles peuvent pour limiter les dégâts. Elles ne pourront pas, indéfiniment.
On parle d'écoles privées sous contrat.
Sous contrat, bien sûr, oui. C'est ce que j'entends, oui. C'est-à-dire, quand elles ne sont pas sous contrat, je leur laisse leur vieux nom d'école libre.
Oui.
Et que là, les écoles privées ne sont pas libres. En fait, elles doivent suivre les méthodes, etc.
Elles le font d'ailleurs en général avec une espèce d'enthousiasme volontariste. L'enseignement, avec des guillemets, ou la formation, avec d'autres guillemets, qui sont donnés dans ces écoles privées sous contrat, vont souvent plus loin dans la déformation et dans le mal enseignement que ce qui se passe dans les écoles publiques.
Mais ils parquent d'être en retard, c'est toujours la même histoire. Ouais. Ils veulent être, et ça c'est ce que disait déjà le père Coupé, ils voulaient être la branche privée de l'enseignement public.
C'est ça.
Et alors, là, comment, que faire? Eh bien,
c'est juste réservé aux enfants des imbéciles qui payent deux fois. L'enseignement laïque avec leurs impôts et l'enseignement privé avec leur argent.
L'enseignement privé sous contrat a en contrepartie des finances publiques. Donc il ne paie pas réellement deux fois. Là où on paie deux fois, c'est quand on veut avoir un enseignement vraiment libre, comme c'était le cas d'ailleurs il y a seulement quelques dizaines d'années. Et je crois que si l'on veut former une nation capable de redresser la situation, il faut s'occuper de très près de l'éducation des enfants, c'est-à-dire mettre à la disposition des parents, des écoles qui dépendent réellement d'eux et qui apportent réellement l'éducation qu'ils souhaitent. Et donc, puisqu'on parlait de récence catholique, bien sûr, nous, ce qui nous intéresse essentiellement, c'est d'encourager la formation d'écoles qui apportent des valeurs nationales et chrétiennes aux enfants.
Alors justement, ce qu'on constate, c'est que s'il semble difficile mais possible de créer des écoles primaires, des écoles primaires totalement libres, c'est-à-dire ne vivant pas sous contrat, mais vivant de la seule collaboration financière des parents qui y envoient leurs enfants et des militants, il faut employer le mot, qui participent à la vie de ces écoles parce qu'ils croient que c'est indispensable. En revanche, il semblerait que pour l'enseignement secondaire, ça soit beaucoup, beaucoup plus difficile, à l'exception de certaines écoles qui existent, mais qui sont décentralisés, qui sont en province, qui sont difficiles d'accès.
Disons que il est vrai que lorsqu'on regarde la carte de France des écoles primaires, il apparaît qu'il y a beaucoup d'initiatives individuelles. D'ailleurs, nous avons, le 1er avril dernier, donc il y a quelques jours, nous avons réuni une dizaine de directeurs d'établissements. C'est une première à Paris, donc sous l'égide de l'œuvre scolaire Saint-Nicolas. Saint-Nicolas étant le patron des écoliers, nous avons créé cette association dans le cadre de Renaissance catholique. Et il s'avère qu'il y existe des écoles de proximité qui sont à l'origine, pour origine, des initiatives privées. Il y a aussi beaucoup d'écoles privées hors contrat qui dépendent de communautés religieuses et ce sont les plus nombreuses, car il est évident qu'une congrégation, qu'une communauté religieuse donne à des possibilités, à des moyens qui lui permettent de fonder une école, de s'étendre, etc. Alors dès que l'on dépasse le domaine de l'école primaire, il y a très peu de collèges qui sont entièrement libres. Actuellement, à ma connaissance, la plupart dépendent de congrégations religieuses, de communautés religieuses, que ce soit pour les garçons ou pour les filles. Et si l'on regarde un petit peu du côté des écoles sous contrat, eh bien, pour ce qui concerne les écoles de garçons, eh bien, il faut bien voir qu'en région parisienne, il n'y a pratiquement pas, et dans l'ouest parisien en particulier, dans les Yvelines, il n'y a actuellement aucun collège de garçons. Hors contrat, il y a une petite école hors contrat qui existe à Mantes-la-Jolie, et puis c'est tout. En dehors, il n'y a rien. C'est pourquoi je parle d'un projet beaucoup plus précis, d'une fondation plus précise. Nous avons décidé, dans le cadre d'une école qui existe déjà à Port-Marly, il y a une école primaire, enfin il y a même deux écoles primaires à Port-Marly, donc l'école Saint-Dominique qui existe depuis 3 ans et demi maintenant, a décidé de se lancer dans la fondation d'un collège, et à la rentrée de septembre, il y aura donc un collège de garçons. C'est un événement important qui est un pari aussi, mais nous avons confiance, puisque l'école primaire qui sert de base en quelque sorte a démarré avec 37 élèves la première année. Il y aura près de 100 élèves à la rentrée prochaine. Donc ces projets marchent parce que dans notre famille de pensée, grâce à Dieu, il y a des familles nombreuses, et que beaucoup de familles également sont très motivées par ces fondations, parce qu'ils se rendent bien compte que si l'on ne fait pas l'essentiel, si l'on ne il ne s'agit pas de nourrir ses enfants et de les élever à la maison, ça ne suffit pas aujourd'hui. Il faut aussi leur apprendre à pousser droit. Il faut qu'il y ait une coopération, collaboration très étroite entre la vie familiale et la vie scolaire et l'école. Il est très important pour les enfants qu'il y ait une harmonie entre les deux. Et donc les parents se rendent compte de cela. Cela demande des sacrifices considérables, puisque les scolarités sont très élevées du fait c'est le prix de la liberté, du fait de cette absence de contrat. Et donc nous avons néanmoins, c'est un des aspects de la fondation de ce collège, c'est que nous avons essayé de proposer une scolarité qui soit relativement abordable, en tout cas c'est la moins chère de la région parisienne, puisque nous proposons une scolarité de 1090 francs par mois sur 12 mois, pour le collège j'entends, hein. L'école primaire c'est moins cher, donc c'est une école de garçons qui a toutes les caractéristiques d'une école catholique selon les principes traditionnels. Le latin est enseigné dès la 6e, le grec est enseigné à partir de la 4e, et l'esprit est parfaitement conforme, si j'ose dire, à la foi catholique. Les manuels utilisés sont tous en conformité avec l'enseignement de l'Église, et l'ensemble du corps professoral est très imprégné, si j'ose dire, d'esprit chrétien, en même temps que d'un grand dynamisme, parce que qui dit esprit chrétien ne dit pas forcément esprit reclus et enfermé dans sa sacristie.
Alors je crois qu'il faut, Michel, préciser que ce projet, qui est très avancé, d'un collège, n'est pas un projet d'école primaire. C'est bien, je crois qu'on l'a dit, mais il faut le redire, parce que pourquoi faire une école primaire pour Renaissance catholique à 100 mètres de l'école Sainte-Geneviève fondée par l'abbé de Blinière? C'est pas une école primaire.
Non, c'est pas une école primaire, c'est une école
de la 6e à la 3e.
C'est cela.
Hein? Donc il ne s'agit pas du tout d'aller chasser sur les terres.
Et puis je voudrais également faire une distinction. Bon, l'œuvre scolaire dont j'ai parlé dépend de Renaissance catholique. Il se trouve qu'effectivement il y a une petite confusion, puisque je suis aussi donc représentant de Renaissance catholique, mais je suis parent d'élèves et partie prenante dans cette fondation qui est indépendante de Renaissance catholique. Il est clair que nous bénéficions et nous avons bénéficié de l'expérience d'autres, et le mouvement Renaissance catholique contribue actuellement à fonder 3 écoles en France, il faut le savoir. Par l'œuvre scolaire, nous apportons des conseils, nous apportons l'expérience des autres établissements. Un des objectifs de ce rassemblement du 1er avril était de permettre aux directeurs d'établissement qui ne se voient pas, il n'existe pas dans les milieux catholiques de conviction, il n'existe pas de stage où l'on peut se mettre à plat certains problèmes pédagogiques, certains problèmes disciplinaires. Donc nous avons voulu mettre, si j'ose dire, à la portée de ces directeurs d'établissement une session de ce genre. Nous avons décidé de programmer, je reviens à l'offre scolaire là, nous avons décidé de programmer une session pédagogique pour les institutrices qui enseignent dans le primaire. Donc voilà, ça c'est dans le cadre de Renaissance catholique. Mais ce collège, est indépendant. Mais je suis heureux d'en parler ce soir puisque j'y mettrai certains de mes enfants.
Alors, une dernière question, enfin une question pratique. Pour les auditeurs, les parents d'élèves ou les parents de futurs élèves qui sont intéressés par ce projet, à qui doivent-ils s'adresser ou à quel numéro de téléphone ou à quelle adresse?
Alors, il suffit d'écrire à l'école Saint-Dominique, 24 rue de Paris, 78 560 à Port-Marly, sachant qu'il s'agit d'un projet en ce sens que l'école n'existe, enfin le collège ouvrira seulement en septembre, mais c'est un projet qui verra le jour, c'est-à-dire que nous ne sommes pas en train de nous interroger. Cette école ouvrira, le collège ouvrira ses portes en septembre, c'est donc une ouverture d'école dont il faut parler. Vous pouvez téléphoner au 39 58 88 40. 39 58 88 40 et là vous saurez tous les renseignements que vous pouvez désirer recevoir et vous pourrez prendre un rendez-vous avec le directeur. Je dirai un mot du directeur si tu me le permets, Serge. Le directeur de ce collège s'appelle Bernard Le Breton. Il est actuellement directeur dans une école dans le sud de la France, à Orpierre. Il enseigne depuis 16 ans dans des collèges de garçons. Il a fait ses premières armes il y a 16 ans à Riomont avec le père Revet.
Ça, donc pour
donner un peu la référence.
On peut difficilement rêver mieux. Il y a une question que les auditeurs se posent, je sais, à chaque fois ils la posent par téléphone aussi, c'est la question du prix.
Donc le prix, la scolarité, je vous l'ai déjà dit, je le répète, donc elle est de 1100 francs par mois sur 12 mois pour faire court. Comparé par rapport aux écoles hors contrat, nous sommes pratiquement moitié moins chers. Alors comment fait-on? Eh bien, nous avons, je pense par exemple l'école Saint-Bernard à Courbevoie, a des frais de loyer qui sont beaucoup plus importants parce que nous sommes dans les Yvelines. Nous serrons les prix. Et puis surtout, nous avons une politique qui consiste à chercher le point d'équilibre sur 3 ou 4 ans. Et qui consiste en parallèle à faire appel à la générosité des donateurs de manière à ne pas faire porter tout le poids réel des charges sur les familles parce qu'elles ne le peuvent pas. Enfin, je prends mon cas précis, j'ai 6 enfants, 7 bientôt, j'aurai 6 enfants scolarisés l'année prochaine. Moi je ne peux pas, enfin il n'est pas possible, si on me demandait de payer 15 000 francs par mois de scolarité, ce qui correspondrait grosso modo au coût réel, il est évident que je ne le pourrais pas. Et donc nous essayons de proposer une scolarité qui soit la plus basse possible, et nous compensons pendant les 3 à 4 premières années avant d'atteindre l'équilibre financier par des dons. Et donc j'en profite pour lancer un appel aussi aux dons, et cet appel d'ailleurs est valable pour toutes les écoles, car c'est bien connu, toutes les écoles libres tirent le diable par la queue comme on dit, et ont des difficultés financière, mais je crois qu'il est vraiment important que vous aidiez, si vous connaissez une école dans votre secteur, une école hors contrat, si vous avez quelques moyens, aidez-la, c'est quelque chose de fondamental, vous ne le regretterez pas, et s'il y a une rentabilité au centuple qui s'applique tirée de l'évangile, je pense qu'elle s'applique pour cet investissement-là.
Oui, je crois qu'il faut avoir présent à l'esprit que ces écoles, on peut les aider, pas seulement parce qu'on y met ses propres enfants, mais aussi parce que le fait que d'autres y mettent leurs enfants, c'est une espèce d'ensemencement de l'avenir. C'est évident que si on perdait cette possibilité d'avoir des esprits formés d'une façon originale, ça serait une catastrophe pour l'avenir de notre pays, et que c'est indispensable d'aider les parents qui ont la volonté militante, encore une fois, de donner à leurs enfants une formation qui les protège de la canaillerie de l'éducation publique ou de l'instruction publique. Il faut les aider s'ils n'ont pas les moyens de le faire à leurs propres frais. En deux mots, Michel, ton impression après l'émission de télé, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'appels. Alors c'est très partagé, il y a des gens qui disent il n'aurait jamais dû y aller, il y a des gens qui disent il a eu raison d'y aller, bravo, félicitations, il a traversé la fosse à Purin la tête haute, etc. Alors, je rappelle, il s'agit d'une émission de télévision que moi je trouve absolument répugnante, mais c'est mon opinion personnelle, qui s'appelle D'accord, pas d'accord, ou Vrai ou faux,
j'y crois, j'y crois pas,
qui évoquait les problèmes du sexe omniprésent, etc. Alors, est-ce que tu penses avoir eu raison d'y aller ? Est-ce que le bilan est positif ?
Oui, je remercie les auditeurs de leur message. Je crois que oui, avec le recul, parce que je pense avoir, enfin, contribué par mon âge, d'abord parce que j'étais le plus jeune des cinq représentants qui considéraient que, eh bien, non seulement il y a trop de sexe dans les médias, mais qu'en plus il y a un problème de fond. Il y avait deux mondes, c'était évident. D'ailleurs, plusieurs personnes du camp adverse, puisque nous étions séparés en deux camps, plusieurs personnes ont bien dit, nous ne sommes pas du même monde. Et je crois qu'ils, d'ailleurs, je crois l'avoir dit pendant l'émission, ils ont raison, nous ne sommes pas du même monde. Et c'est déjà intéressant de pouvoir se mettre d'accord sur ce constat. Bon, j'espère ne pas avoir trop balbutié et avoir pu défendre le point de vue catholique. J'ai essayé en tout cas, c'est cela, de montrer que l'on peut être parfaitement catholique, en conformité avec l'enseignement de l'Église, sans être complexé, coincé, triste, s'il était possible, si ça a pu permettre à certains jeunes de redresser la tête, si ça peut leur donner un peu de courage, parce que c'est vrai que la phase de l'adolescence est difficile, et nous avons, même moi je suis pas très vieux, mais enfin, nous ne connaissions pas ça, il y a 15 ans, il y a 20 ans, tout cela n'existait pas, il y a 25 ans, on pouvait aborder, si j'ose dire, l'âge adulte, essayer de résoudre ces problèmes de la montée de la vie en soi, de la puberté, etc., sans être agressé, comme on l'est littéralement, comme le sont les jeunes aujourd'hui. Et donc, il y a vraiment une... Je crois que les jeunes qui veulent vivre comme des chrétiens authentiques aujourd'hui, eh bien, doivent puiser des grâces dans les grâces surnaturelles et doivent avoir beaucoup de courage. Eh bien, si ça a pu les encourager, eh bien, tant mieux. J'ai reçu beaucoup de lettres, je dois le dire. J'ai été un peu surpris de ça. Et des lettres de jeunes, exclusivement de jeunes. J'ai 21, j'ai 22 ans, j'ai 23 ans. Et j'ai été même abordé à la sortie de la messe dimanche et lundi, puisque j'étais à une messe d'enterrement. J'ai d'ailleurs taquiné des jeunes qui avaient entre 16 et 18 ans qui m'ont dit, on vous a vu à la télé, c'était bien. Alors je leur ai rétorqué, je leur ai dit, voilà, je leur ai dit, vous regardez la télévision à cette heure-là. Voilà. Mais ils savaient que il y aurait des amis sur le plateau.
Je crois qu'il y a une chose qu'il faut dire et répéter, c'est que la meilleure arme contre ça, contre cette cochonnerie, cette ignominie, cette bassesse, cet avilissement, c'est le rire. Il faut regarder ces types-là. Il faut, comprenez, je crois que quand on regarde une photo pornographique, le premier réflexe de l'homme normalement constitué, c'est d'éclater de rire. C'est quelque chose, c'est tellement incroyablement comique quand on y pense. Et ces gens-là, il faut les traiter comme ça, je crois. Il faut, un saint triste est un triste saint, disait, je sais pas qui, Daniel Raffard de Boyenne, peut-être.
J'aurais pu.
Saint Jean Bosco et Saint François de Sales.
Voilà, bah, ils étaient deux et c'est des bonnes recommandations.
Mais moi, je suis pas encore canonisé.
Et ça va pas tarder.
Non, j'espère. Je pense,
grâce au Libre Journal.
Oui, mais attention, ils ne canonisent qu'après la mort. Alors là, je suis un peu
moins pressé. Non, il n'y a pas d'urgence, mais ça ne tardera pas après que vous ayez franchi la grande porte. Mais je crois que c'est ça. Il faut quand même garder la ressource de rire. Et quand on... J'ai zappé deux, trois fois parce que je voulais voir ce que donnerait cette émission, mais je voulais voir surtout qui y était. Et comme je peux pas supporter cet immonde rassemblement de crapulerie, je ne pouvais pas rester plus de quelques secondes sur l'écran, mais j'ai zappé et j'ai trouvé que ce qui manquait, c'était le rire libérateur. Le rire qui consiste à dire, mais enfin, regardez-vous. Comprenez, quand vous avez ce type, je sais plus son nom, espèce de crapaud à lunettes qui vous parle de la chose, on a envie de lui dire, mais enfin, tu t'es regardé dans une glace, mais qu'est-ce que tu peux en savoir? C'est quelque chose d'incroyable de voir ces gens-là. Ils sont laids, tellement laids, que ça suinte par tous les pores de leur peau. Parce qu'ils ont une laideur intérieure, et ils peuvent avoir des tronches supportables à regarder, la laideur irradie littéralement de leur visage. Je crois qu'il faut prendre ça comme ça et il faut regarder ces émissions avec ça. Il faut toujours penser qu'il y a un moment où le rire, c'est comme l'encre de la sèche. C'est ça qui vous protège et qui vous permet de vous esquiver. Une auditrice nous apporte un témoignage. Dans une école catholique sous contrat, on a posé cette question à son fils. Quelles sont les valeurs de la famille ? Et alors le gamin, très mal élevé, a répondu « Dieu, la famille, la patrie, le travail ». Hein, vous vous rendez compte ? Eh bien, le professeur, qui était une femme, a dit « Ça, c'est des gens qui mériteraient d'être pendus par les pieds à un crochet de boucher. Et quand je dis par les pieds, c'est parce que je suis aimable. Elle a répondu, je croyais qu'on avait éliminé ces gens-là à la libération. Voilà. Parce que dans une école catholique sous contrat. Donc n'envoyez pas vos enfants dans les écoles catholiques sous contrat, parce que je pense que dans une école publique, le prof aurait hésité avant de dire une chose pareille. Et puis cette auditrice nous dit que samedi, lors de la manifestation rue Ordonnaire qui a été organisée par le docteur Dor contre l'avortement, parmi les slogans des contre-manifestants, il y avait « Si Marie avait connu l'avortement, on n'aurait pas tous ces emmerdements ». Quand je vous dis que c'est des pulls à haine, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, merci Michel. Alors on rappelle l'adresse à laquelle on peut...
Donc le collège Saint-Dominique, sachant qu'il y a également une école primaire qui elle est mixte, donc collège Saint-Dominique de Garçon, 24 rue de Paris, 78 560 à Port-Marly, téléphone 39 58 88 40.
Moi j'ai 88 60 sur la feuille que j'ai.
Excusez-moi, non c'est 88 40, c'est ça.
Il y a une erreur sur l'imprimé là.
Bon, 88-40 en tout cas. Voilà. Des appels, Madame Victoria.
Quelle est votre position par rapport à la construction de la cathédrale d'Évry qui vient d'être inaugurée?
Oh, mais j'ai pas de position par rapport à la cathédrale d'Évry. J'ai écrit il y a fort longtemps un article qui a été publié par le journal Présent, où j'ai expliqué comment, à mon avis, et après l'étude que j'en avais faite, la cathédrale d'Évry est un monument maçonnique qui n'a strictement rien à voir avec une cathédrale, mais qui est tout simplement un monument élevé par l'homme à la gloire de l'homme. Et je peux envoyer à tous les auditeurs intéressés une copie de cet article. Je ne sais pas s'il existe encore des exemplaires du Présent qu'il avait publié, mais la photocopieuse est un outil moderne. Et donc je peux envoyer une photocopie de cet article si ça intéresse.
Et il y a des questions sur le vote. Par quel mystère, n'étant pas démocrate comme vous l'êtes, peut-on appeler à voter?
Vous savez, quand on pose cette question, ça me fait toujours... D'abord, je répondrai que Maurras n'est pas démocrate et ça n'a pas empêché les gens d'Action française de se présenter aux élections et d'être élus. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'avais eu ce genre de conversation avec un prêtre qui n'était pas à proprement parler démocrate non plus. Si je me souviens bien, c'était l'abbé de Nantes. Et je lui avais dit, mais vous me faites penser à quelqu'un qui serait dans une barque au milieu d'un océan de ce que vous pouvez imaginer, et qui dirait, il faut pas bouger. Alors effectivement, on peut penser que si on commence à ramer, ça va sentir de plus en plus mauvais. Mais au moins, on a des chances d'en sortir de l'océan. Tandis que si on rame pas, on reste au milieu de l'océan jusqu'à la fin de ses jours. C'est pas parce qu'on n'aime pas la baignade qu'il faut pas nager quand on tombe à l'eau. Et puis, je dirais que, au moins, en votant, on a l'impression de faire quelque chose pour en sortir. Voilà. Si vous ne votez pas, eh bien, vous pourrez pas dire, le jour où on s'en sera sorti, que vous aurez fait quoi que ce soit. Je pense que l'attitude qui consiste à dire on s'abstient et on attend les Cosaques ou le Saint-Esprit est une attitude inefficace. Autre chose ?
Oui, alors, toujours sur le même sujet... Que pensez-vous de Monsieur Griotred dans l'émission de Jean Ferré? On lui a posé la question, que pensez-vous du vote des royalistes? Et il a répondu, les royalistes, c'est moi qui les représente.
Ben, si les royalistes, il a raison de dire ça. Les royalistes, c'est des gens qui attendent que le roi... Enfin, qui attendent. C'est des gens qui pensent que le pays devrait être dirigé par un roi. Les monarchistes sont des gens qui pensent que le pays devrait être dirigé par un seul homme. C'est légèrement différent. Alors, si M. Griotret est royaliste, j'en suis personnellement enchanté. L'essentiel pour les royalistes, c'est pas de savoir pour qui ils vont voter, c'est de savoir s'ils vont accepter le roi quand le roi reviendra.
Voilà.
Maintenant, en attendant, ils peuvent voter pour qui ils veulent. Il n'y a pas d'obligation de vote pour les royalistes.
Voilà, c'est dommage, ils devraient tous... Enfin, je ne dis pas. Et vaut-il mieux voter, M. de Villiers, que de ne pas voter du tout?
Ben, je vais peut-être surprendre, mais oui, je dirais oui, absolument. Parce que...
Comme il nous a copié...
Si on vote pas du tout, ça sert à rien. Mais si on vote et qu'on veut pas voter, qu'on veut voter pour... alors attendez, je vais essayer d'être bien clair. En votant, cette fois-ci, il y a deux possibilités vraisemblables. Une possibilité vraisemblable et une possibilité probable, même certaine. La possibilité vraisemblable, c'est que, étant donné la formidable confusion qui règne, Jean-Marie Le Pen arrive en position de deuxième tour, de participer au deuxième tour. C'est pas gagné, c'est pas évident, c'est pas certain, mais c'est une possibilité. Il faut, raisonnablement, il faut le penser, étant donné la formidable manipulation des sondages. Il faut savoir que les sondages sont fabriqués à la main, que les chiffres finaux sont totalement truqués par rapport aux chiffres premiers, et par conséquent, on ne sait absolument pas ce qui peut arriver. Donc, il y a toujours une possibilité sérieuse que Le Pen soit candidat, soit en position au deuxième tour contre on ne sait pas qui, puisque les trois sont dans un mouchoir, soi-disant. Donc il ne faut pas perdre cette chance-là. La deuxième chose, c'est que de toute façon, quel que soit le résultat du premier tour, ce premier tour servira à compter les habitants de ce pays, les Français, les habitants de la France, qui pensent que les solutions proposées dans le cadre du compromis nationaliste sont des bonnes solutions. Et dans ce cadre-là, il faudra faire comme aux européennes, il faudra dire les voix qui se sont portées sur la droite nationale représentée par Le Pen sont additionnables aux voix qui se sont portées sur la droite bourgeoise représentée par Philippe de Villiers. Parce que, en gros, c'est quand même des gens qui pensent la même chose, la différence étant que la plupart du temps, les électeurs de Philippe de Villiers ont un peu moins le courage de leurs opinions que les électeurs de Le Pen. En gros, ils pensent la même chose, mais ils n'osent pas le dire. C'est ce qui permet de dire que de Villiers, c'est une espèce de Le Pen light. Donc, après les élections, après le premier tour, on additionnera ces deux tendances d'une façon certaine. Par conséquent, il faut voter. Si on ne veut pas voter Le Pen pour des raisons que je ne comprends pas, mais après tout, les gens peuvent avoir leur motivation, au moins qu'ils votent pour de Villiers, parce qu'à la fin du premier tour, ça comptera pour dire qu'il y a en France 20, 22, 25% de gens qui en ont ras-le-bol de la dérive, de la pourriture, de la démocrassouille, de la cochonnerie, et qui veulent une France qui revienne à des principes traditionnels, etc. Voilà.
Et à propos des sondages, j'ai lu, je crois, l'an présent, que Chirac, en 1988...
Non, c'est dans le Libre Journal.
J'ai lu les deux tout à l'heure, alors je les ai mélangés, pardon. Alors dites-le, puisque c'est dans votre journal.
Non, je ne le dirai pas, je ne veux pas parler de mon journal.
Non,
simplement que...
Oui, en 1988, on lui avait donné 22 ou 23%, et il a fait 19,5%.
Il a fait 19,5%, c'est-à-dire qu'il est dans la situation actuelle.
Donc il était majoré.
Et on avait donné à Le Pen, je crois,
8%, je crois.
Et il a fait 12%. Donc si on reporte aujourd'hui...
En 88, il a fait 14,5%.
Oui, 14, pardon, je dis une bêtise, que je pensais aux européennes. Donc si on reporte aujourd'hui, qu'on augmente le score annoncé par les sondages de Le Pen, qui est en gros de 13%, et qu'on l'augmente de 7 points, de 50%, on arrive à 20. Et si on réduit le score de Chirac de 25%, on arrive à 18.
Je ne sais pas bien compter, mais c'était 18.
Donc il est derrière, voilà.
Donc... Bon. Courage, votons.
Il ne faut pas trop manipuler les chiffres des sondages qui n'ont absolument aucune valeur.
Bon, je vous lis très vite les autres messages. Trois petites minutes. Je vois M. Lugan qui me regarde avec un air méchant.
Non, avec intérêt.
Moi, j'ai l'éternité africaine devant moi.
C'est parfait. Alors, rappelez-vous les slogans de mai... C'est à propos de l'enseignement. Rappelez-vous les slogans de mai 68. Nous ne formerons pas les futurs esclaves du patronat. Aujourd'hui, c'est 100% de réussite.
Ah oui, ça, effectivement, ils n'ont pas formé les esclaves du patronat. On peut les féliciter.
Alors, vous parlez de Laurent Béteille.
Oui,
ne le confondez pas avec Raoul Béteille.
C'est pour ça que j'ai dit le prénom. J'ai dit Laurent Béteille, qui n'a rien à voir. Qui n'a rien à voir, qui n'est pas Raoul Béteille.
Il y a plusieurs messages à propos du Bnei Brit. On nous dit qu'il a été fondé aux USA en 1829 puis alors quelqu'un là nous dit, mais vous avez dit que c'était dans le Monde du 24
non,
juin.
Du 26.
Alors pouvez-vous préciser, parce que je viens de consulter ce numéro, je n'ai rien trouvé. Comme c'est vilain.
Je l'ai répété, je sais pas combien de fois. Qu'est-ce que j'ai fait du papier, ça, je l'ai perdu. Non, voilà. C'est pas le Monde du 24 juin, c'est le Monde du 26 mars 1986. C'était après les élections du 16 mars, élections législatives qui avaient porté à l'Assemblée nationale 35 députés du Front National. Donc, dans Le Monde du 26 mars 1986, il y a un article sur trois colonnes intitulé « Inquiétude dans la communauté juive ».
Voilà. Et si on veut toutes les précisions sur cette affaire-là, on peut toujours commander la brochure éditée par Présent à 10 francs et livre, ça coûte 15 francs. Et c'est très, très bien expliqué, très détaillé.
Tout à fait, Madame Victoria.
Attendez, attendez. À propos de Fun Radio.
Non.
Si, mais c'est à propos. Si Marie de Nazareth avait connu l'IVG, nous n'aurions pas tous ces embêtements. Eh bien, c'est eux qui ont lancé le slogan qui a été repris par les manifestants l'autre jour. Voilà. Par qui l'enseignement religieux est-il dispensé?
Je ne sais pas. C'est une question.
C'est une question d'auditeur. Par qui l'enseignement religieux est-il dispensé? Par des, probablement des clercs ou des...
Par des catéchistes.
Les catéchistes. Voilà. Sont-ils des curés ou pas?
Ça dépend. Il y a des laïcs qui le font et qui sont surveillés par des curés. Enfin, dans les bonnes maisons, évidemment, si vous allez dans votre paroisse.
Et puis une élève de seconde qui nous dit, j'ai 16 ans. Comment l'école pourrait faire preuve de patriotisme et donc nous apprendre notre culture, sachant que les profs sont des staliniens de banlieue, dit-elle, cette petite. Mon prof Romette, d'histoire nie la terreur pendant la Révolution. Ça, effectivement, si c'est à ce point-là, alors là, bon, il y a de quoi tomber. Raid mort.
Merci, Madame Victoria. On posera les autres questions tout à l'heure.
C'est des questions pour M. Lugan, donc on attendra qu'il parle d'abord.
Un mot avant de parler du livre du professeur Lugan sur l'Afrique. On a parlé de l'enseignement, professeur. Là. Est-ce que vous, qui êtes en bout de ligne, si j'ose dire en bout de chaîne, vous avez une opinion avouable sur la formation qui est donnée en général dans l'enseignement secondaire? Quand vous voyez arriver les étudiants...
Ah oui, c'est très simple. Il y a deux catégories. Il y a les étudiants qui ont fait des classes préparatoires, et puis il y a les autres. Et le niveau est un niveau de plus en plus lamentable d'une année sur l'autre. Avec cependant un progrès, nous n'avons plus maintenant à l'université les 40 ou 50 fautes d'orthographe par copie comme il y a 8 ou 10 ans. L'orthographe s'est améliorée, mais la culture générale s'est profondément affaiblie. Mais de toute façon, que voulez-vous que nous fassions à l'université avec des classes d'âge qui ont le bac à 70 ou 80%? J'étais président du jury de bac plusieurs fois et les consignes étaient claires. Il fallait faire laisser passer 70 ou 80%. Donc, en fait, nous devons faire le travail qui n'a pas été fait au niveau du bac, ce qui fait que la cause est totalement perdue.
Alors, je savais que vous aviez des relations, mais je ne pensais pas que vous poussiez à ce point-là. Parce que vous publiez un livre intitulé « De la colonisation philanthropique à la recolonisation humanitaire », qui est un livre consacré à l'Afrique, et vous vous arrangez pour que l'actualité soit à peu près entièrement focalisée sur l'Afrique, ce qui est un assez joli travail de relations publiques, je dois dire. Alors, c'est un livre. Bon.
Vous avouerez que sur le Burundi, j'avais malheureusement annoncé un peu ces événements lors de mon dernier passage il y a quelques mois.
Même si ça ne fait pas plaisir à tout le monde, il faut bien reconnaître que vous aviez raison. Alors, avant même qu'on parle du livre, je voudrais signaler aux auditeurs que dans les toutes premières pages, c'est-à-dire avant même l'avant-propos, il y a une page qui dit « Définition ». Parce que chaque fois que vous venez à ce micro, des auditeurs téléphonent en disant « Est-ce que vous allez vous décider à nous dire la différence entre race, ethnie, etc. ?» Alors voilà, définition. Je lis cette page, elle est très courte. « Clan, deux points, unité sociologique désignant un ensemble d'individus consanguins descendant d'un ancêtre commun. Ethnie, groupe humain considéré dans ses particularités culturelles et traditionnelles qui unissent ses membres. » Communauté linguistique établie sur son territoire traditionnel, l'ethnie ne se définit pas par la race, mais par la langue. C'est une définition de M. Littré. C'est pas une définition du professeur Lugan. Le petit Larousse illustré, quant à lui, définit la race comme un groupe d'individus dont les caractères biologiques sont constants et se conservent par la génération. Race blanche ou leucoderme, race jaune ou xanthoderme, etc. Et enfin, tribu. La tribu est un groupement de familles sous l'autorité d'un même chef, nous dit toujours le petit Larousse illustré. Donc on voit bien que la différence entre l'ethnie, qui est un rassemblement de particularités culturelles et linguistiques, c'est très important, et la race, qui est un rassemblement de caractères biologiques.
Et tous les problèmes de l'Afrique sont là, race ou ethnie, ethnie ou tribu. À l'heure actuelle, nous vivons dans un monde de glissement du champ sémantique et l'on parle d'ethnie au lieu de parler de tribu. Parce que le politiquement correct régnant en maître, la notion de tribu est devenue péjorative, et comme il n'y a plus de sourds mais des malentendants, il n'y a plus de tribu mais il y a des ethnies. Ce qui fait qu'aujourd'hui l'on est en train, à cause de notre politiquement correct, nous sommes en train de détruire les dernières bases solides sur lesquelles l'Afrique peut s'arrimer. Car je crois à la vertu de l'ethnie. Ce qui est détestable en Afrique, c'est le tribalisme. Mais l'ethnisme est très précisément le contraire du tribalisme. Le tribalisme naît de la dislocation de l'ethnie. Et l'ethnisme est la forme africaine du nationalisme. Et il est évident que l'Afrique ne pourra démarrer, ne pourra s'en sortir, ne pourra jouer son rôle qu'en passant par ce stade obligatoire, non pas du mondialisme, mais par le stade de l'ethnisme. Et c'est pour cela que les mondialistes font tout pour détruire l'ethnisme et pour le remplacer par sa caricature qui est le tribalisme. Et voilà le thème de mon livre. C'est pour cela que j'ai intitulé ma deuxième partie « Les ethnies, deux points, la chance de l'Afrique ».
Alors, on peut dire que dans tout le champ du débat sur l'Afrique, jamais les positions que vous présentez n'ont été défendues par personne.
Non, jamais.
Ça, c'est tout à fait clair. Il y a, aussi bien à droite qu'à gauche, des tenants de la colonisation, de la recolonisation, de la colonisation humanitaire, de l'ingérence humanitaire qui est le nouveau nom qu'on donne à la colonisation, mais personne n'a défendu l'idée que vous défendez.
Eh bien, écoutez, ma pensée a évolué. Ma pensée a évolué, bon, parce que je ne suis pas un dogmatique, je suis le contraire d'un dogmatique, je l'ai déjà dit à ce micro, j'ai toujours combattu le stalinisme de la pensée parce qu'il était à gauche. Et si le stalinisme de la pensée est à droite, ben je le combattrai. Je suis d'abord, avant tout, un esprit libre, je n'appartiens à aucun clan, je crois, un esprit libre, j'en paye le prix. Eh bien, dans le domaine des études africaines, ma pensée a évolué, et je crois qu'aujourd'hui, j'en suis à un point qui est assez révolutionnaire dans ce domaine. Dans la mesure où je crois que le grand problème actuel de l'Afrique, la colonisation, est une phase qui est passée. Malheureusement, la décolonisation s'est faite trop tôt et dans des conditions bâclées. Bon, nous n'y pouvons plus rien, c'est une page qui a été tournée, ça s'est passé il y a 30 ans, c'est un drame, c'est une erreur, c'est une folie, mais la colonisation s'est faite, nous sommes à 30 ans des indépendances. Je pense qu'à l'heure actuelle, l'Afrique subit nos universalismes et nos idéologies. L'Afrique a été détruite pendant 30 ans par le tiers-mondisme, par le marxisme, par le libéralisme, et aujourd'hui par le démocratisme et par l'humanitaire. Nous faisons tout, enfin nous, les intellectuels qui dominent la pensée unitaire de l'Occident, qu'on appelle le politiquement correct, cette pensée fait que nous prenons l'Afrique en charge, nous avons la dictature des gentils, la dictature de l'humanitaire, et nous imposons un nouvel universalisme dans un monde qui ignore l'universalisme. L'échec de nos idéologies n'a pas servi à nos intellectuels à tirer des leçons, mais à inventer une nouvelle idéologie. Si l'Afrique se meurt, c'est par déficit de démocratie. Moi, je dis tout à fait le contraire. Je dis, si l'Afrique se meurt, c'est tout simplement parce que l'Afrique n'est plus l'Afrique. Si l'Afrique se meurt, c'est parce que nos idéologies démocratiques, nos idéologies rousseauistes, nos idéologies démocratiques sont en train d'imposer en Afrique des données qui sont à l'opposé de la nature africaine elle-même. Et je pense que, de même qu'un pontonnier qui veut construire un pont est obligé, s'il veut que son pont tienne, de l'arrimer sur la roche mère, sur un sol qui est solide, je pense que dans le désordre africain actuel, le seul élément de solidité est constitué par les ethnies. Cependant, ces ethnies, pour qu'elles puissent jouer un rôle, ces ethnies doivent être libres de jouer leur rôle. Et pour qu'elles soient libres de jouer leur rôle, eh bien, il faut les laisser se battre. Et ce n'est pas en intervenant...
Pardon de vous couper, mais parce que là, votre discours prend est à un point charnière. Et ça, c'est la partie la plus surprenante de votre thèse. Vous dites, bon, développez tout ce que vous avez développé jusqu'à présent sur les ethnies, et ça on comprend très bien, et il y a un moment où vous dites, eh bien ça, cette situation ne peut être résolue que par la polémologie, que par l'affrontement physique.
Je dis dans mon livre, toute l'humanité a ainsi évolué. Ce n'est pas par la démocratie que s'est constituée la France. Ce n'est pas par la démocratie que s'est constituée l'unité allemande. Ces grandes unités qui ont donné naissance à des États-nations sont le résultat de la patience, de la guerre, de la volonté de puissance, de la ruse, des alliances. En Afrique, l'on voudrait que cela soit différent. Pourquoi ? L'Afrique, à l'heure actuelle, est une Afrique qui a été décolonisée, mais qui n'a pas été mentalement décolonisée. L'Afrique a perdu tout l'apport de la colonisation, mais en revanche a gardé tout l'aspect néfaste de la colonisation idéologique de la philosophie des droits de l'homme. Or, que serions-nous devenus, nous, Français ? Prenons l'exemple de la fin de l'Empire carolingien. Au moment de la dislocation de l'unité impériale européenne, que serions-nous devenus si des Martiens avaient débarqué et avaient décidé au nom de principes humanitaires, au nom de l'ingérence humanitaire, mais c'est épouvantable, ils se battent, séparons-les. Nous serions des clochards. Ouais. Nous serions des clochards pour l'éternité, nous serions des SDF pour l'éternité. Nos nations européennes ne se seraient pas créées, car c'est dans le sang, c'est dans la bataille que se créent les nations. Malheureusement, c'est ainsi. La vie est un combat. Eh bien, en Afrique, à l'heure actuelle, ce qui s'est passé, c'est que l'indépendance a été donnée non pas au peuple dominant, au peuple historiquement dominant dans la longue durée africaine. Les indépendances ont été données aux peuples les plus nombreux. Et ces peuples les plus nombreux, ceux dont les femmes avaient les ventres les plus féconds, étaient justement les peuples qui étaient les vaincus de l'histoire africaine. Ceux qui étaient venus à nous au moment de la phase de la conquête coloniale pour que nous les protégions précisément contre les peuples prédateurs qui, eux, étaient les peuples dominants. Et toute l'histoire en Afrique s'est faite au profit des peuples dominés contre les peuples dominants. Et bien sûr, nous avons détruit, nous avons combattu les peuples dominants qui étaient nos adversaires politiques en Afrique, nous, les Anglais et les autres puissances coloniales. Et au moment des indépendances, à qui avons-nous donné le pouvoir ? À ceux qui étaient les plus proches de nous, ceux qui nous avaient le mieux servi. Et dans tous les cas, à ceux qui étaient les plus nombreux, c'est-à-dire à ceux qui, au point de vue démocratique, avaient la légitimité, car ils étaient les plus nombreux. Mais ceci n'a pas duré. Ceci s'est maintenu tant que nous étions là pour intervenir militairement. Mais maintenant que l'Afrique est sortie du jeu mondial avec la fin de la compétition Est-Ouest, l'Afrique n'étant plus courtisée par deux blocs qui n'existent plus, bien l'Afrique est laissée à elle-même et nous nous retirons. L'Europe, le monde riche, se retire d'Afrique. Et le monde riche se retirant d'Afrique, les peuples dominants qui ont été écrasés pendant 30 ans par leurs anciens dominés au pouvoir parce qu'ils étaient les plus nombreux et parce que nous les avions supportés, ces peuples relèvent la tête. Résultat, problème Touareg. Résultat, problème du Tchad. Résultat, problème du Rwanda, du Burundi. Résultat, problème de l'Afrique de l'Est avec les Kikuyus et les Maasai qui se battent. Alors l'Afrique aujourd'hui est en train de renaître à sa longue durée historique et au moment où l'Afrique a cette chance de voir réapparaître les peuples dominants, ceux que j'appelle une sorte de formule, les Prusses potentielles, nous allons intervenir pour empêcher précisément ces Prusses potentielles de faire l'unité au sein de leur ethnie. Parce que c'est au sein des grandes ethnies que pourront se créer éventuellement ces États-nations, peut-être dans 100 ans, 200 ans, 300 ans. Je ne sais pas s'ils se créeront un jour, mais si nous faisons de l'interventionnisme humanitaire, ils ne se créeront jamais.
Mais ça suppose, premièrement, un arrêt total de l'ingérence humanitaire, total, de la recolonisation humanitariste, c'est-à-dire qu'il faut abandonner ces gens-là à leur sort, en disant, finalement, en ayant une position très très cynique, qui consiste à dire, on fait pas d'omelette sans casser les œufs. Donc il faut qu'il y ait là-bas tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire les famines, etc., les tueries, pour en arriver à une solution finale, aussi horrible que ça puisse paraître. Deuxièmement, ça suppose une remise en cause de toutes les... de toutes les frontières héritées de la
colonisation. Non, pas de toutes. Je crois qu'il faut, attention, il ne faut pas être systématique, car mon approche africaine est réaliste. Et justement, c'est une approche qui veut refuser toute idée de système. Et je ne pense pas qu'il faille opposer à 30 ans d'erreurs reposant sur la non-discussion, la non-remise en question des frontières héritées de la colonisation, je ne pense pas qu'il faut opposer, au contraire, une rediscussion systématique de ces frontières. Non, ce serait l'anarchie. Je crois qu'il faut, au coup par coup, régler les problèmes en sachant bien que ces frontières issues des indépendances sont des frontières qui, dans la plupart des cas, ne tiendront pas la distance. Et jusqu'à présent, c'était un tabou. Mais l'indépendance de l'Érythrée il y a 2 ans prouve que ce n'est pas un tabou et que l'on peut remettre en cause ses frontières. Et dans mon livre, j'ai 5 chapitres dans lesquels je redessine les cartes d'un certain nombre de grands pays africains qui de toutes les façons vont éclater aujourd'hui, demain, dans 10 ans, dans 20 ans. Qu'est-ce que 20 ans à l'échelle de l'histoire? Ces pays vont éclater et dans ces pays où existent de très grandes ethnies, très puissantes, qui occupent des territoires très vastes, je propose des redécoupages de l'Afrique selon les grandes ethnies. Mais attention, ne soyons pas rousseauistes. Toutes les ethnies ne se valent pas. Je ne suis pas plus pour l'égalité des ethnies que pour l'égalité des hommes, qui n'existe pas. Il y a des peuples dominants, il y a des ethnies dominantes. Sur les 1500 grandes ethnies africaines, il y en a 40 ou 50 qui sont dominantes. Et les autres devront leur obéir. Devront les servir.
Il y a une sorte de fonctionnalité des ethnies. Je veux dire, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des ethnies qui sont plutôt de la serpe et de la houe et des ethnies qui sont plutôt de la vache. Enfin, vous faites cette différence entre les peuples agriculteurs, les peuples cultivateurs et les peuples bergers, les peuples pasteurs. Est-ce que justement il y a cette spécificité ethnique de certaines fonctions?
Il y a des grandes caractéristiques, il y a des grandes zones. Il y a les zones de la vache et de la lance, de la vache, du cheval, de la lance. Il y a des zones de la houe et de la glèbe. Et bien évident que l'histoire de l'Afrique est en grande partie l'histoire de ces grands peuples, de même que nous avons dans nos mondes européens des populations qui ont des vocations différentes. Il est certain que tous les États, la plupart des États qui ont existé en Afrique ont été des États qui ont été créés par les peuples guerriers, pas par les peuples agricoles. Et je ne dis pas que tous les peuples guerriers ont créé des États, mais quand les États existaient, c'était des peuples guerriers qui les ont créés, c'est tout à fait naturel. Et la colonisation, en fait, s'est opposée à ces peuples guerriers, car ces peuples guerriers s'opposaient à nous. Ce qui fait que nous avons un petit peu, avec la colonisation et avec les indépendances, bouleverser l'évolution naturelle de l'Afrique. Exactement ce qui s'est passé en Amérique du Nord. Lorsque les Français avec Champlain se sont alliés avec les Hurons, mais ils se sont mis à dos les Iroquois. Et les Anglais ont eu plus d'intelligence en se mettant bien avec les Iroquois qui étaient le peuple guerrier. Car si les Français s'étaient alliés aux Iroquois lorsqu'ils sont arrivés au Canada au XVIIe siècle, ben nous y serions encore en Nouvelle-France. C'est tout un problème d'approche, mais bien entendu, nous parlons avec le recul du temps. Et aujourd'hui, le recul et les leçons des échecs de 30 ans d'indépendance font qu'il faut prendre le problème différemment. Les Africains ne sont pas des Européens pauvres à la peau noire. Il faut bien qu'on le dise. Il y a entre eux et nous une incompatibilité de culture. La grande formule qui résumait la situation était la phrase définitive du maréchal Lyoté, qui disait « Les peuples d'Afrique ne sont pas inférieurs, ils sont autres ». Et c'est le refus de cette différence, à cause de notre philosophie jacobine, unitaire et assimilatrice, c'est à cause de cette idée que nous avons eu une mauvaise approche de la question. Et aujourd'hui, nous opposons aux échecs des idéologies précédentes un nouvel universalisme, qui est l'universalisme des droits de l'homme, et de l'interventionnisme humanitaire. Eh bien, nous allons achever de tuer l'Afrique.
Alors, dernière question, est-ce qu'il y a une solution autre, ou est-ce que la solution, c'est seulement de dire, bon, on arrête et on s'en va, ou est-ce que l'Occident, l'Europe...
Ben, l'Occident n'existe plus.
L'Occident n'existe plus. Mais enfin, ça peut revenir, il ne faut pas désespérer. Est-ce que l'Europe ne peut pas intervenir pour aider cette espèce d'accouchement des Afriques à venir?
La meilleure aide que nous pourrions apporter à l'Afrique serait de ne pas intervenir et de laisser les équilibres naturels se reproduire, en conservant évidemment la mainmise sur quelques secteurs stratégiques qui pour nous sont essentiels, mais nous avons tout essayé en Afrique. Nous déversons. Savez-vous que l'impôt sur le revenu rapporte à l'État en France 300 milliards. 300 milliards. Savez-vous quel est le budget de l'aide aux pays du tiers-monde? 47 milliards. C'est-à-dire que près de 20% de l'impôt sur le revenu sert aux pays du tiers-monde pour un résultat nul, pour un résultat néant. Allons-nous continuer éternellement à tenter de combler le tonneau des Danaïdes africains au nom d'un prétendu péché colonial, au nom d'une prétendue culpabilité qui n'existe que dans l'esprit tordu des tiers-mondistes? Non. Pour le moment, nous devons dire aux Africains, aide-toi, le ciel t'aidera, et que les meilleurs gagnent. Mais nous n'allons pas éternellement porter l'Afrique à bout de bras, et nous n'allons pas éternellement faire de l'Afrique le champ d'expansion de nos idéologies. Car l'Afrique a subi toutes nos idéologies. Tiers-mondisme, marxisme, libéralisme, et maintenant droit de l'homme et démocratie. Mais la démocratie est véritablement à l'opposé de ce qu'est la mentalité africaine. La démocratie repose sur l'individualisme dans un continent qui ignore la notion d'individualisme. Ce qui se passe avec la démocratie, c'est que nous caissons l'ethnisme pour en faire le tribalisme. Ce qui se passait au Congo, ce qui se passe dans tous les pays d'Afrique.
Un auditeur nous dit, je suis médecin, j'ai exercé en Afrique, je suis absolument de votre avis, car vous résumez complètement le problème. Alors, je crois que là, on a un témoignage, si j'ose dire, de la bouche du cheval. Mais un autre auditeur demande si les positions que vous défendez, les thèses que vous avancez, sont partagées par certaines élites africaines.
Ah oui, je vais vous donner deux exemples. Je reviens du Canada, où j'ai donné des conférences à l'Université Laval. Et j'avais un public à 95% africain, j'avais des amphis de 400-500 étudiants, et nous en avons discuté, et les étudiants africains étaient, je ne parle pas ceux qui étaient devenus des nègres blancs, c'est-à-dire ceux qui étaient complètement gagnés aux idéologies européennes, je parle les vrais africains qui réagissaient en africain, étaient entièrement d'accord avec moi. Hier soir, j'ai donné une conférence à Saumur, et j'avais devant moi un certain nombre d'élèves officiers de divers pays d'Afrique, et notamment des Congolais, et nous avons été entièrement d'accord avec ce que je disais. Il est bien évident que cette idée n'est pas compréhensible par des Européens qui n'ont pas mis les pieds en Afrique, ou bien qui sont complètement paralysés par leurs idéologies incapacitantes, mais les hommes de terrain, qu'il s'agisse de Noirs ou d'Européens, sont parfaitement d'accord avec ce que je dis. Le problème, c'est que les universitaires ne diront pas cela. Les universitaires sont des lâches. Mes collègues sont de prudents caméléons, dont la carrière universitaire se fait par les collègues. C'est-à-dire, c'est en léchant les bottes que l'on monte dans les échelons. Et si vous léchez pas les bottes, ben vous montez pas dans les échelons. Moi, j'ai décidé de pas monter, donc je lèche pas les bottes, donc je suis libre. Mais je suis le seul à dire cela, vous comprenez?
Plusieurs auditeurs nous disent, mais si on n'aide pas les Africains, ils viendront chez nous.
Pardon?
Si on n'aide pas les Africains, ils viendront en Europe.
Oui, bien sûr, il suffit de mettre des douaniers et de la police des frontières. Bon, et ça, écoutez, donnez-moi le ministère, je vais m'occuper, et on arrêtera le problème assez vite.
En tout cas, j'ai...
Mais Vénère, dans son merveilleux livre, qui est le grand livre, explique bien qu'en fait, la présence en Algérie se légitimait, était légitime pour une grande raison, c'est qu'on n'arrête pas une invasion démographique chez soi.
Derrière sa propre
frontière. On l'arrête au-delà du limès. Et les Romains l'avaient bien compris. Les Romains l'avaient bien compris lorsqu'ils étaient présents en Afrique du Nord, parce que au-delà du limès, vers le Sahara, sur toutes les pénétrantes des Redzou sahariens, il y avait des sonnettes, il y avait des postes avancés. Et ce n'est pas en se mettant dans le donjon. Et c'est là, beaucoup de nos amis pensent que le combat se fait dans le donjon. Non. On se met dans le donjon, on fait Cameroun quand on peut plus tenir la position et qu'on veut mourir dignement et élégamment. Mais avant de faire Cameroun, eh bien, on se bat en race campagne. Et on rentre dans le donjon que vraiment lorsqu'on a été battu en race campagne. Avant, manœuvrons. De grâce.
Merci, professeur. On peut continuer cette conversation, mais on est obligé de faire la coupure de 7h30.
Voici un message d'Elisabeth Depré, animatrice d'un cercle d'auditeurs de Radio Courtoisie dans le Calvados.
Je m'appelle Elisabeth Depré. Je suis l'animatrice d'un cercle d'auditeurs de Radio Courtoisie dans le Calvados. Lorsqu'Henri de Lesquin m'a demandé, à moi, simple auditrice, de m'adresser aux autres auditeurs pour leur dire l'importance de se battre pour l'existence de Radio Courtoisie, je n'ai pas beaucoup hésité. Je pense que nous avons une mission à accomplir au service de notre chère radio, pour la remercier du bonheur qu'elle nous procure et de l'ardeur qu'elle met à défendre notre pays. J'ai découvert Radio Courtoisie par hasard en cherchant un bulletin météo. J'ai vite compris que je venais de trouver une radio exceptionnelle. Radio Courtoisie est devenue pour moi un antidote au conformisme. Elle rythme ma vie et remplit toutes mes attentes. Grâce à elle, j'ai cessé de me sentir un dinosaure, car je sais maintenant que de très nombreux auditeurs partagent les mêmes valeurs que moi. L'idée que notre radio puisse disparaître m'est tout simplement insupportable. Je ne peux même pas imaginer l'isolement et le désespoir dans lesquels nous risquerions de retomber. Il ne faut pas que cela arrive. Je vous ai expliqué avec mes mots pourquoi Radio Courtoisie est importante dans ma vie, comme elle l'est sans doute dans la vôtre, pourquoi je lui donne et pourquoi vous devez vous aussi lui donner. J'espère donc que, comme moi, vous allez cotiser et vous battre pour que vive Radio Courtoisie.
C'était un message d'Elisabeth Depré, animatrice d'un cercle d'auditeurs de Radio Courtoisie dans le Calvados. Si vous aussi vous souhaitez créer votre cercle d'auditeurs ou être mis en relation avec Elisabeth Depré, appelez notre secrétariat au 01 46 51 00 85 ou adressez-nous un courrier avec vos coordonnées.
Vous écoutez Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national, à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8. Pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord, en clair, sur le bouquet satellite CanalSat, et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.fr.
À 5h, Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie, commence ses émissions avec une introduction musicale suivie à 6h de chant grégorien proposé par Patrick Banken. Mais pour l'heure, voici tout de suite la seconde partie du document Radio Courtoisie, un libre journal de Serge de Bekech du 12 avril 1995. Excellente nuit à tous, il est 3h32.
Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie.
C'est Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez un document Radio Courtoisie, un libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria datant du 12 avril 1995 et diffusé dimanche 10 octobre 2010 de 2h à 5h. Elle a été réalisée par Franck. Exceptionnellement, vous ne pourrez intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Beaucoup d'auditeurs, professeur Lugan, nous demandent, comme d'habitude, de repréciser le titre de votre livre, c'est « Afrique de la colonisation philanthropique à la recolonisation humanitaire ». Le titre est très universitaire, le contenu du livre est aussi universitaire, mais pas dans le sens ennuyeux du terme. C'est-à-dire que ça se lit vraiment avec beaucoup de facilité et beaucoup d'intérêt, parce que c'est une thèse totalement nouvelle, alors en plus, expliquée d'une façon lumineuse. On comprend tout, d'un seul coup, toutes les questions qu'on se pose sur l'Afrique, pourquoi ça fonctionne comme ça, qu'est-ce qui se passe, etc. On comprend tout. Et c'est vraiment un livre qui me paraît capital.
C'est un livre qui ne sera dans le commerce que mardi.
Oui.
C'est un livre qui est édité aux éditions Christian de Bartilla, qui sera donc dans le commerce mardi. On le trouvera dans toutes les librairies. Et les auditeurs qui souhaiteraient avoir un exemplaire dédicacé n'auraient qu'à le commander à l'Afrique réelle.
Alors l'Afrique réelle, c'est la revue que vous publiez, revue trimestrielle.
Une revue trimestrielle, oui, le numéro 7 est sorti, l'Afrique en chiffres, c'est un numéro guide pays par pays avec le pourcentage ethnique, les chiffres de population, les religions, etc. Mais les auditeurs qui écriront pour commander le livre recevront un formulaire, ne faisons pas trop de publicité, c'est un peu gênant.
Oui, je l'ai trouvé aussi. Oui.
Bon, alors, disons simplement que les auditeurs qui voudraient un exemplaire dédicacé n'auraient qu'à le commander à l'Afrique réelle, boîte postale numéro 7, 03-140, numéro 6, pardon, l'Afrique réelle, boîte postale numéro 6, 03-140 à Charroux. Boîte postale numéro 6, 03-140, en joignant un chèque de 160 francs, qui inclut l'achat du livre et le transport, et en précisant bien si le livre doit être dédicacé et à qui.
Alors, pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, je rappelle que vous êtes enseignant d'histoire de l'Afrique à l'Université de Lyon 3. Vous êtes docteur en histoire, docteur d'état et lettres. Vous avez été professeur à l'Université du Rwanda pendant 11 ans, de 1972 à 1983. Vous avez fait de l'archéologie en Afrique, c'est-à-dire que vous êtes un des rares spécialistes de l'Afrique qui tiennent ces informations, non pas de la lecture de ceux qui ont écrit avant lui, mais de l'examen des situations sur le terrain. C'est-à-dire que c'est par l'archéologie que vous avez notamment retracé les grandes migrations des peuples africains. C'est capital parce que quelqu'un qui a vécu 11 ans en Afrique et au Rwanda, qui est une espèce de concentré des problèmes africains, on a tendance à l'écouter avec de l'attention quand il parle des problèmes africains.
D'autant plus que sur la question du Rwanda et du Burundi, l'on nous dit des bêtises à longueur d'émissions radio. Et
sur Radio Courtoisie.
Non, mais et les spécialistes, entre guillemets, qui sont interviewés sont des gens qui sont des idéologues, qui font passer une idéologie et qui ne décrivent pas la réalité de la situation.
Merci.
Merci.
À bientôt pour votre prochain livre. Je sais pas, d'ici un an. Je crois que vous partez.
Laissez-moi souffler. J'en suis en ce moment à un livre et demi par an, plus ma revue.
C'est ce que je disais dans un an.
Là,
vous partez là.
Oui,
en Afrique.
Je pars en Afrique ces jours-ci, ensuite en Afrique du Sud. J'ai un certain nombre de voyages, et puis je vais m'occuper du prochain numéro de l'Afrique réelle, numéro qui devrait paraître pendant l'été.
Bon voyage, et puis en revenant, vous nous raconterez un peu ce qui se passe sur place.
Merci infiniment.
Je reçois maintenant quelqu'un que je voulais recevoir depuis très longtemps parce que on va parler avec lui on va parler de plusieurs sujets, dont un que je n'ai jamais évoqué dans cette émission parce que j'attendais d'avoir quelqu'un pour en parler, qui soit en mesure d'en parler avec toute la connaissance, toute la sagesse, tout le respect que ce sujet impose. Et bien ce garçon, après avoir longuement hésité, après avoir réfléchi sur la question de savoir si il était bienvenu, raisonnable, sage de venir parler de cette question à un micro, a accepté de venir finalement. Je dois dire que je pense que Rémi Fontaine, qui est son ami, qui est collaborateur, un des collaborateurs de Présent, n'est probablement pas étranger à cette décision, puisqu'il avait publié dans Présent une grande interview dont j'avais parlé à ce micro de ce jeune homme. Donc n'est probablement pas étranger à la décision de Dominique Morin de venir parler au micro de ce libre journal du mercredi soir d'un problème, d'une question, d'un sujet qu'il concerne au premier chef et d'une façon très directe et très personnelle, c'est le sida. Dominique est malade du sida. Il n'est pas que ça. Je veux dire, Dominique, c'est un homme comme moi, comme j'allais dire comme tout le monde. Mais il est en plus, il a cette spécificité d'être malade du sida. Pourquoi je lui ai demandé de venir aujourd'hui? Pas du tout parce que sidaton, pas du tout parce que opération larmoyage, ni rien du tout. Mais parce que je crois que, d'abord, je lui avais demandé de venir il y a déjà longtemps, et je crois qu'il y a une espèce de confiscation de ce sujet qui devient totalement insupportable. Et il faut faire savoir, il faut que nous sachions que cette maladie n'est pas une espèce de domaine réservé, une spécialité de certaines familles, politique ou de certaines familles de pensée. C'est une maladie qui touche tous les milieux. Et c'est surtout une maladie en face de laquelle il peut pas y avoir d'attitude, politicienne. La gauche n'a pas le monopole du cœur, et je crois qu'elle n'a pas le monopole de la compassion et de la volonté de comprendre. Alors, voilà pourquoi j'ai demandé à Dominique de nous apporter son témoignage. Ne croyez surtout pas qu'il y a dans mon intention la moindre volonté de sensationnel ou d'exhibitionnisme. Je sais que de la part de Dominique Morin, c'est tout le contraire. Il n'y a aucune volonté d'exhibitionnisme. Il y a une volonté de témoignage, et de témoignage qui ne peut s'exprimer, qui n'a jamais pu s'exprimer, parce que la parole n'est donnée qu'il y a des gens qui ne pensent pas, qui ne jugent pas, qui ne traitent pas cette question comme lui-même la traite. Alors Dominique, ce que je vais vous demander d'abord, c'est de vous présenter de façon complète. Parce que, très clairement, il faut dire les choses de la façon la plus simple. En général, quand quelqu'un dit « j'ai le sida », la première question que se posent les gens, comme quand quelqu'un dit « j'ai été en prison », la première question qu'on se pose et qu'on n'ose pas poser, c'est « comment ça se fait ? Comment c'est arrivé ?» Donc, qui êtes-vous ? Quel âge avez-vous ? Et comment c'est arrivé ?
Je pourrais peut-être commencer par raconter mon itinéraire, parce que mon itinéraire et d'autres actions dans d'autres domaines que j'ai menées, explique peut-être pourquoi j'ai tant pris à cœur ce problème du sida. Alors je m'appelle donc Dominique Morin, j'ai 35 ans. J'ai passé il y a entre 15 ans et 12 ans 4 années assez agitées sur une branche de l'échiquier politique où il y avait beaucoup de dégâts, c'est-à-dire de morts par suicide et autres, c'est-à-dire parmi les squatteurs, parmi les autonomes à l'époque. Aujourd'hui, on appellerait ça le scalp ou autre. Je vous avais dit, je crois, un jour, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, c'était au moment où il y a eu la fusillade de la Nation. Et les jeunes qui ont commis cette fusillade de la Nation, je me suis identifié à eux avec 13 ans de recul, parce que j'étais comme eux.
Pour préciser les choses pour les auditeurs, disons que vous étiez assez proche de ce qu'on appelait à l'époque la mouvance Action Directe.
J'étais pas dans la mouvance Action Directe, mais j'étais obligé de la côtoyer, puisqu'elle essayait de faire du recrutement dans les squats, j'étais squatteur, dans les autonomes, j'étais autonome, dans les gens qui étaient partisans de la méthode violente en politique, je faisais partie de ces gens-là. Mais c'est vrai que je les ai côtoyés sans jamais avoir d'affinité avec eux. Mais je dois reconnaître que aujourd'hui, j'ai complètement changé grâce à Dieu. Mais
quand vous dites grâce à Dieu, c'est pas une formule.
Oh non.
Une formule toute faite.
Non.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Eh bien, je serais bien capable de vous le dire. Si je peux redescendre quand je serai là-haut, je vous ferai un dessin.
Ce qu'il faut dire, ça me paraît très important pour la compréhension de ce que vous êtes et du témoignage que vous apportez, c'est que vous n'avez pas été ramené à l'Église par la maladie, ramené à la foi par la maladie. Vous étiez déjà revenu à la foi quand vous avez découvert que vous étiez atteint du sida.
Mais
c'est important parce qu'on pourrait penser qu'il s'agit d'une espèce de refuge psychologique, pas du tout.
Il y a un peu de tous les cas, hein, dans les conversions. Je connais le cas d'un gars dont je garderai toujours un merveilleux souvenir, qui est parti le 21 février, qui est parti au ciel certainement, et qui lui s'était converti après la nouvelle de sa maladie. Donc il y a un peu... je pense que ça a été aussi la preuve qu'on peut toujours se convertir, c'est-à-dire on a toujours besoin dans notre vie d'une nouvelle conversion et d'apprendre que j'étais malade du sida, donc déjà en phase 4, puisque j'ai contracté cette maladie en fait durant ma période ces 4 années de vagabondage sexuel, puisque ça faisait partie du lot. Et donc j'ai quitté ce milieu miraculeusement, je dois le dire, parce que c'était ça ou la mort. Et je suis incapable d'expliquer comment j'ai fait ce cheminement. Tout s'est merveilleusement passé. Je suis revenu à la pratique religieuse par une restructuration, c'est-à-dire je me droguais aussi, pourquoi pas. Ça fait partie aussi du jeu si on veut. Donc en quittant la drogue, en quittant ce milieu, en quittant ces idées aussi, ce qui a été le plus facile à faire en fait, parce que quand on est un peu curieux et qu'on est un peu honnête et qu'on veut voir derrière les choses, on s'aperçoit vite qu'il y a des gens qui vous bernent et on s'aperçoit vite que bon, l'idéalisme ça va un moment, mais ça correspond pas à la réalité de l'homme. Et donc je ne sais pas comment j'ai quitté ce milieu, quoi, et je serais incapable de l'expliquer. Et je suis revenu donc à une vie normale, c'est-à-dire j'ai pratiqué du sport pour arrêter la drogue. J'ai régularisé ma situation militaire qui était, disons, assez difficile, quoi. J'étais.
Mais pardon de vous couper. Ça s'est passé d'une façon brutale. Ça a été le chemin de Damas ou ça a été plus proche de ce qu'a connu le père de Foucault? C'est-à-dire, est-ce que c'est une évolution? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que, enfin, ce qui s'est passé, vous nous dites, je sais pas. Mais est-ce que ça a été brutalement? Vous êtes passé, vous avez franchi la frontière qui vous a fait passer de cet univers d'ordures, de squats, de drogue, de filles, de tout ça. Et puis vous êtes passé de l'autre côté ou est-ce que ça s'est fait par glissement?
Ça s'est fait très rapidement parce que j'étais devant un choix, un jour, de prendre une décision de monter d'un degré, c'est-à-dire en fait...
De participer à la lutte armée, quoi. C'est pour dire les choses clairement, c'était
en
ça.
En gros, de finir comme les jeunes de... enfin, de finir. C'est-à-dire de finir comme les jeunes de la nation s'ils avaient été abattus par les policiers. Et donc, ce jour-là, déjà plein d'événements providentiels, n'hésitons pas à le dire, j'ai failli brûler deux fois, j'ai vu les balles passer à côté de moi, un engin explosé d'une manière tout à fait mystérieuse dans la pièce où je dormais, et sans jamais que je sois touché. Alors, je veux dire... Bon, on peut ne pas être curieux, on peut planer en fumant du hash tous les jours, mais je veux dire, quand même, à un moment, il arrive où on se pose des questions. Et tout ça accumulé, plus je dois l'avouer, un gars que je fréquentais qui était un peu bizarre, qui était anarchiste chrétien. Bah oui. Et lui, il a été le coup de pouce, certainement, c'est-à-dire il a été le bon conseil dont que j'attendais, il faut le reconnaître. Mais tout a été la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la miséricorde. Et ensuite, ma situation militaire, donc je l'ai régularisée d'une manière aussi assez mystérieuse, parce que j'étais quand même insoumis à l'objection de conscience depuis un an. Je suis revenu à une vie normale, c'est-à-dire à un travail régulier, en attendant de faire mon service militaire, à 24 ans. Et à une vie normale, c'est-à-dire que j'avais un logement régulier, c'était chez ma mère en fait. Je menais une vie saine, c'est-à-dire que bon, j'ai mis du temps à arrêter la drogue dite douce, comme quoi ce mot de drogue douce ne veut rien dire du tout. J'ai mis 2 ans à force d'efforts de et puis bien sûr l'aide de la Providence pour arrêter ça en me défonçant sur les pistes à courir et autres. Bon, ça m'a permis de devenir marathonien, mais c'est pas évident du tout, hein. Mais ça a été une lente restructuration. Et je suis revenu, bien sûr, à la pratique religieuse dès que j'ai fait mon service militaire. Dès que j'ai fait mon service militaire, en 84, je crois, j'étais de consigné, je me souviens, à Noël, j'étais à la messe. Et depuis, je n'ai jamais cessé d'y aller. Et j'ai ramené ma mère d'ailleurs qui avait cessé d'y aller depuis notre enfance à cause de problèmes assez difficiles. Et donc ben j'ai mené une vie, disons, catholique, pratiquant. Plus tard, j'ai commencé à fréquenter le pèlerinage de Chartres. Là, j'ai rencontré des gens qui m'ont ramené vers le militantisme. C'est en fait... des gens du centre Charlier, à qui je tiens à rendre hommage d'ailleurs, parce que le militantisme que j'avais connu et vécu pouvait faire que si je retournais dans des actions militantes qui me déçoivent, j'en sois écœuré à tout jamais. Et ça n'a pas été le cas. Donc je leur rends cet hommage, quoi. Ensuite, je me suis intéressé au combat contre l'avortement. Et là, si vous permettez, je tiens à raconter une anecdote, parce que c'est assez cocasse la manière dont je suis venu au combat contre l'avortement que j'ai pratiqué avec d'autres pendant disons 5 ans, jusqu'à aujourd'hui. Je n'avais aucune activité autre que celle du centre Charlier, ce qui me laissait assez de temps libre. Mais j'ai quand même dû arrêter le sport, parce que je pensais que c'était plus important d'essayer de rendre service autour de soi. Peut-être pour réparer les conneries que j'avais faites. Je sais pas, j'ai pas peur de le dire. C'est certainement en partie pour ça. Et un jour, je vois un article dans l'Express. Et il y avait une photo qui illustrait cet article. Sur cette photo, c'était des gens qui occupaient un bloc d'avortement. À l'époque, ils ne s'enchaînaient pas. Hein. Ils avaient une banderole. Ils restaient jusqu'à ce que la police les évacue. Et sur cette photo, j'ai reconnu 2 personnes que je connaissais, dont un ami. j'étais intéressé. Un jour, je le rencontre. Je lui dis, bon, alors évidemment, l'article était diffamatoire, comme vous pouvez l'imaginer. Un jour, je le rencontre, je lui dis, ça m'intéresserait. Et en fait, c'est un sauvetage. Et cet ami a dû en faire part à des gens qui avaient le pouvoir décisionnel, qui m'ont pris. Et je dois, pour être vraiment honnête, la première fois, j'y suis allé, pas par activisme, mais c'est vraiment un côté un petit peu... Vous voyez, le militant qui veut aller faire un petit raid ou autre. Bon, c'est pas du tout le sauvetage, ça. Mais j'étais dans cet esprit, moi. Je n'avais jamais connu le sauvetage. Je pouvais pas imaginer un instant ce que c'était. Et puis, les sauvetages suivants, j'en ai fait 9, donc en tout. Les sauvetages suivants, j'y suis resté parce que j'ai trouvé quelque chose qui me... Comment dire ? J'avais l'impression que ça faisait partie intégrante de ma vie, que je pouvais plus m'arrêter de faire ça. Et même pas pour des raisons spirituelles, d'abord. Pour des raisons spirituelles, bien sûr, mais d'abord pour une question de vérité et de justice. Parce que dans un centre d'avortement, dans le bloc d'avortement, on voit jusqu'au tablier de l'avorteur, on voit jusqu'au matériel, et il y a des gens avec nous, parfois, qui ont une expérience dans ce domaine, que ce soit des sages-femmes, des accoucheurs, des choses comme ça, et qui nous expliquent, ou qui sont informés. Et c'est monstrueux. C'est la vérité, qu'on sache que c'est pas vrai, c'est pas un amas de cellules. Il n'y aurait pas tout ça. Bien sûr... C'est ça au départ qui m'a guidé et qui m'a fait rester au sauvetage. Bien sûr, les raisons spirituelles sont évidentes aussi. Mais je crois que dans tous les combats que j'ai faits, je dirais même les mauvais, j'étais pas très idéologue dans mes années d'anarchisme. J'avais l'impression de défendre, bon, c'était un idéal et autres. Bon. Or là, plus d'idéal. Mais là, on sent que si on n'est pas là, personne n'y sera. Et plus personne ne veut s'y intéresser. Et ceux-là, ils n'ont pas d'avocats. J'ai dit devant les tribunaux, ça avait l'air de les déranger. J'ai dit, ceux-là, ils n'auront jamais d'avocats. Et ils sont tous les jours un millier à mourir en France.
Et... Oui, parce qu'il faut, pardon de vous couper, il faut préciser que ces sauvetages auxquels vous avez participé vous ont valu plusieurs comparutions devant les tribunaux.
Pas les premiers, puisqu'il n'y avait pas la loi Neyertz à l'époque. Les cinq premiers, il n'y a pas de poursuite. Il y a eu des gardes à vue, après une durée de séjour plus ou moins longue dans le bloc. Et puis, ensuite, il y a eu la loi Neyertz. Pardon, excusez-moi, j'ai dit, je crois, la loi Veil.
Non, Neyertz, vous avez
d'accord.
Bien
d'accord. Et, excusez-moi de dire souvent eux, mais c'est la première fois que je parle devant un micro.
C'est pas grave, même ceux qui font des émissions depuis 6 ans finissent par dire eux. Alors donc, ne vous gênez pas.
J'ai estimé que c'était, il y avait pas de problème pour continuer quoi. Le jour où j'ai vu la loi Neyertz, on savait qu'elle nous attendait, qu'elle nous pendait au bout du nez parce que il leur fallait trouver un moyen pour nous arrêter. Ça m'a pas posé de problème. J'ai donc fait 4 sauvetages pour lesquels j'ai été inculpé. Un pour lesquels je suis passé en appel avec 8 autres personnes, parce que bien évidemment je ne suis pas le seul à faire le sauvetage, et je me présente ici en tant que Dominique Morin, je ne représente pas les sauveteurs. Chacun est différent. C'est ça aussi qui est fantastique, c'est que des gens peuvent venir d'horizons tout à fait différents, qui ont une histoire, des raisons d'être là tout à fait différentes, et on se retrouve en vue du bien commun dans un endroit où vraiment... Je crois que personne n'a envie de se lever le matin à 5 heures et puis d'aller s'enchaîner pour y rester un certain nombre d'heures. Au plus, on a réussi à rester 9 heures parce que c'était la première fois que dans le communiqué de presse qui était envoyé aux journaux et autres, il était mentionné 2 malades du sida, in persona, un prêtre catholique et 2 malades du sida avec les noms.
Alors justement, Dominique Morin, est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'indécence ? Est-ce que vous ne ressentez pas, vous, comme une espèce d'impudeur de la part des médias, le fait de dire, comme si c'était une spécialité professionnelle, il y a un prêtre,
deux femmes, deux malades du sida. Est-ce que c'est pas une façon, est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est une façon, pour employer un terme à la mode, d'exclure les gens ou de les, parce que vous êtes malade du sida, mais vous n'êtes pas que ça. Ou est-ce que ça devient absolument central?
J'étais malade du sida sans le savoir lors des 6 premiers sauvetages. J'ai appris en janvier 94, que j'étais malade. Bon, je ne voyais pas la raison d'arrêter, comme lorsque la loi Neyert est apparue, je ne voyais pas la raison d'arrêter le sauvetage. Pour le cas de l'autre malade dont je ne peux pas me permettre de parler, mais je peux quand même dire que il a fait 3 sauvetages, donc tous en étant malade et en le sachant, en étant même très avancé en maladie. Et ça a été un très grand moment dans sa vie, ça je le sais. Ça a été vraiment un moment bouleversant dans sa vie, puisque j'étais au procès de Grenoble où il aurait dû comparaître avec moi en disjonction et avec un autre ami. Et il n'a pas pu se rendre, évidemment, il était à l'hôpital. Il mourait le soir même.
Il est mort le soir du procès, oui.
Et je le pleure pas, parce que je regrette simplement, puisqu'il aurait aimé que je sois là, il l'a dit à ses amis, ne pas être à ses côtés, mais Dieu est seul maître. Mais en tout cas, je sais qu'il est mort dans la paix, qu'il est mort entouré de gens formidables. J'ai été à ses obsèques 2 jours après. Et vraiment, si je devais éprouver un sentiment vis-à-vis de lui, c'est déjà de savoir qu'il est mort heureux. Il a souffert. Mais il est mort heureux, il est mort serein, paisible. Après avoir fait quelque chose qui avait vraiment marqué sa vie. Il n'y avait pas que ça qui avait marqué sa vie, bien sûr, mais ça en faisait partie. Et quand vous dites que il y a une sorte de d'exclusion ou autre, non, moi j'apporte mon sida en plus, c'est tout. C'est sûr, j'étale mes plaies. Mais je n'avais rien à offrir de plus au sauvetage. J'avais pas d'argent, j'avais pas de fortune personnelle, j'ai pas d'intelligence particulière, j'ai pas des qualités qui puissent servir à la cause que je sers. Et puis ce sida. Alors évidemment, il m'a été demandé de témoigner publiquement. Et je peux vous dire que j'étais très peu décidé à accepter, pour des raisons X. Déjà parce que, comme je le reconnais le droit à tout malade, on est beaucoup mieux pour assumer cette charge de cette maladie, toujours incurable, dans la paix, dans le silence. Et puis on n'est pas forcément entouré de gens intelligents, de gens qui vous comprennent. Il y a des gens qui, en apprenant leur maladie, croient, en s'adressant à leur famille, des homosexuels par exemple, croyant s'adressant à leur famille, qui à ce moment-là découvrent des fois même qu'ils étaient homosexuels, croient trouver ce cocon qu'elle se raccrochait, parce qu'on sait que tout s'écroule à ce moment-là. Et dans certains cas, ils se font rejeter. Donc, l'anonymat, je le comprends tout à fait, les gens qui veulent garder l'anonymat, je respecte tout à fait. En fait, ce qui m'a poussé, c'est une décision de quelqu'un, et c'est quand j'ai rencontré Philippe. Parce que quand j'ai vu quelqu'un de lumineux, j'arrive pas à trouver le mot depuis que je cherche, de lumineux comme l'était Philippe, de si simple, si sincère,
Philippe,
dans son c'est abandon.
Le garçon qui est
Philippe Imbert.
Que c'est ça, qui était avec vous, qui était qui est sauveteur. Enfin,
oui.
Qui était sauveteur.
Et c'est lui, en fait, qui m'a. C'est son attitude, c'est de le voir, de rencontrer. Entre parenthèses, ça a été aussi l'occasion d'une nouvelle conversion pour moi. J'en finissais pas, et je pense que jusqu'à la fin de mes jours, je finirai pas de me convertir. Mais c'était vraiment trop. Il était, je pense, en phase terminale. Il avait déjà eu des souffrances très bien, quelque chose de très très dur. Et il offrait ce qui lui restait, avec des mois, des semaines de vie en moins, pour ses petits bébés. Ça inspire, pour les gens qui ont du cœur, le respect déjà. Mais moi, sauveteur, qui ai fait 9 sauvetages, j'ai vu des gens qui en avaient fait plus, des gens qui ont offert des choses aussi formidables, qui resteront inconnues parce que elles sont faites pour rester dans l'inconnu, hein. Mais je trouvais que dans son cas c'était je veux pas prononcer le mot héroïque, mais c'était grand, quoi.
Une question que je voudrais vous poser qui est très difficile. Vous venez d'évoquer à travers Philippe, vous avez dit qu'il a offert ses souffrances. Alors il y a quelque temps, il s'est ouvert un peu plus bruyamment une polémique autour de cette question. Quel est le sens de l'oblation de ses souffrances? Est-ce que on a le droit de dire ça? Est-ce qu'on a le droit de dire aux gens qui souffrent, offrez vos souffrances? Alors, vous êtes concerné au premier chef. Il y a même des prêtres et même un prélat qui a dit, avant de mourir d'un cancer, ne parlez jamais de souffrance, qui a dit à ses prêtres, ne parlez jamais de souffrance. Alors, quel est votre avis à vous là-dessus? Est-ce que cette idée, qui est quand même au centre de notre foi, enfin une des idées centrales de notre foi, est-ce que vous qui expérimentez la souffrance et l'angoisse, est-ce que vous croyez qu'on a le droit de dire ça, ou est-ce que c'est abusé que de prétendre que la souffrance soit une oblation possible?
Je pense que c'est difficile. Je peux m'expliquer pour moi-même en face d'un autre malade, ou en face de gens touchés par cette maladie par le biais d'un parent ou d'un ami. Et je dirais même, au risque de choquer les auditeurs, un homosexuel par rapport à son ami homosexuel. Parce que je veux dire, l'homosexualité est un des plus graves péchés contre la nature. Mais ça reste des gens qui, à ce moment-là, éprouvent un sentiment, on en pense ce qu'on veut. Personnellement, je suis contre l'homosexualité, je suis pas contre les homosexuels. Mais j'ai un peu perdu le fil de ce que je voulais dire.
Oui, on parlait de la souffrance, de l'oblation de la souffrance.
Et je voulais dire, je ne me permettrai jamais de dire à quelqu'un d'offrir ses souffrances. Seulement, à ce moment-là, c'est pas un droit, c'est un devoir qu'on a, et c'est le devoir d'aimer et de compatir. Et simplement, aujourd'hui, je crois qu'on a évacué de partout la souffrance et la mort. On cache les morgues. Les malades du sida disparaissent au bout de 2 heures pour des questions d'hygiène qui n'en sont peut-être pas vraiment. On évacue la mort. Et je crois que même l'euthanasie, il participe d'une certaine manière. C'est-à-dire, on veut cette agonie qui dure, on ne supporte plus de la voir. Et, comment dire, c'est aussi une immense grâce de savoir, mais c'est des grâces qu'on ne mérite pas de toute manière. Et qu'on a reçues comment? Par la communion des saints, par la communauté chrétienne, des gens qui prient pour vous. C'est, pour moi, c'est quelque chose d'inexprimable, mais quand mon médecin m'a appris que j'étais malade d'une maladie en phase très avancée, c'est-à-dire la phase 4, et que j'allais mourir, il me l'a pas dit, mais ça voulait dire ça, et je l'ai bien compris. Et bien, à ce moment-là, je me suis dit que Dieu avait de l'humour, parce qu'il m'avait quand même laissé 12 ans pour me redresser, puisque mon affection remonte avant ma conversion. Et je dirais, pour une raison toute bête, c'est que j'ai eu aucune relation sexuelle depuis ma conversion. Ce qui prouve que c'est pas impossible, puisque je me prends pas pour un héros ou un saint. Et donc, je me suis dit que Dieu avait de l'humour, et puis j'ai tout de suite vu la croix. Et bon gré, mal gré, évidemment, il y a des problèmes que ça pose et autres, mais bon, on règle ça quand on est seul ou avec un prêtre.
Quel est votre jugement ou votre avis sur la façon dont le sida est aujourd'hui traité sur le plan médiatique, en général?
Mais d'abord, je dirais que le fait d'être malade ne me donne aucun droit particulier, contrairement à certains qui se croient autorisés parce qu'ils ont un sarcome de Kaposi, un cancer de la peau, des choses comme ça, qu'on voit sur leur visage qu'ils sont malades ou qu'ils s'en réclament. Ça ne nous donne aucun droit particulier à revendiquer quoi que ce soit. On a déjà des droits que nous reconnaît la société. Mais ça devrait nous donner des devoirs, j'estime au contraire. C'est-à-dire que nous, l'erreur que nous avons faite, essayer d'empêcher, si possible, à au moins un, c'est-à-dire une personne qu'on rencontre anonymement, si on ne veut pas afficher ça sur la place publique, mais au moins à essayer à une personne d'empêcher cette tragédie. Parce que j'espère, grâce à Dieu, réussir à supporter cette épreuve jusqu'au bout. Mais je prends pas le pari, ce ne sont pas mes mérites personnels qui sont en jeu, pour la plupart des malades. Je pense qu'un jeune, enfant de 20 ans, je dis à dessein ce mot-là, parce que je pense qu'à 20 ans, on est un enfant aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a aucune structure morale. Tout a été fait depuis 20, 30 ans. Et pour eux, je pleure vraiment. Je comprends qu'ils soient révoltés, désespérés. Je comprends, je ne veux pas dire que je trouve ça bien, que je trouve ça normal. Mais je comprends tout à fait. Parce qu'on ne leur a jamais... On ne les a pas formés à accepter l'épreuve, à accepter la responsabilité simplement. Simplement la responsabilité de dire, dans le cas des maladies transmises sexuellement, simplement de dire, d'abord, il faut accepter. Accepter, ça veut dire, t'as été faire une partie de jambes en l'air avec une amie ou avec un ami, ou un toxicomane ou autre, et... Aujourd'hui, il y a une conséquence. Mais d'une part, il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas cette consolation, parce que d'une certaine manière, ça pourrait être une consolation de se dire, bon, j'ai fait une connerie, aujourd'hui j'en assume les conséquences. C'est comme si on met la main sur le feu qu'on avait allumé et on se brûle, on peut le reprocher à personne d'autre. Tandis que les malades qui meurent d'un cancer, d'une leucémie ou de je ne sais quoi, ou d'un accident renversé dans la rue par un chauffard, quelle consolation ils ont. Je pense que de ce point de vue-là, et puis ce qui est indécent, c'est quand même que tout est fait dans le sens opposé à celui où il devrait aller pour rendre service aux malades. Sur tous les plans. Je peux citer, si vous voulez, des exemples de mon cas personnel, puisque j'ai pas acquis en découvrant cette maladie un diplôme de malade ou de spécialiste du latex, mais on sait que le préservatif n'est pas fiable. Seulement, quand vous sortez de l'hôpital, eh bien, on vous recommande le préservatif en disant vous pouvez coucher, mais attention, faut mettre le préservatif. Alors, le médecin qui m'a dit ça, j'ai pas pris trop mal la chose, parce qu'après, on avait déjà eu des bonnes relations entre nous. Il s'est assis, il a discuté, il dit, ah oui, parce que vous assumez vos responsabilités, mais la plupart des gens, aujourd'hui, ils sont pas prêts. Et c'est malheureusement vrai, et je ne porte aucun jugement sur qui que ce soit, je dis simplement que c'est comme ça. C'est comme ça. Et il y a des enfants de 20 ans qui meurent dans les hôpitaux, et offrir ses souffrances, eh bien c'est ça. Offrir ses souffrances, c'est avoir reçu tellement de grâce que, bien sûr, la douleur et autres, je sais ce que c'est, je saurais ce que c'est, comme tous les malades. Mais j'ai tellement reçu de grâce que si en échange, je ne prie pas pour tous les autres et je n'essaye pas de faire quelque chose pour tous les autres, eh bien, je me fais complice d'une certaine manière. Je me fais complice. Et je dirais même que je suis le pire des complices, puisque je me retrouve dans la situation de quelqu'un qui sait la vérité, façon de parler, c'est-à-dire qui sait qu'on ment aux gens, à propos des modes de prévention, à propos des modes d'infection. Bon, et je ne dis rien. Je suis le pire des complices, je suis le dernier des salauds. À partir du moment où j'ai accepté, bien sûr, de témoigner, tout paraît évidemment lumineux. C'est-à-dire que je passe mon temps à gratter du papier, je passe mon temps à solliciter autour de moi des gens qui pourraient être intéressés par un témoignage. Tout le monde n'est pas intéressé par le témoignage que je peux faire, mais que des gens comme certains professeurs qui peuvent, parce qu'ils connaissent un peu le sujet quand même, parler des limites du préservatif. Tout le monde n'est pas intéressé. Par exemple, j'assistais en tant que témoin malade à une conférence. Et lors de cette conférence, avec le professeur, je peux donner son nom, c'était le professeur Lestrade, qui est très connu, qui est très AI de AIDE et d'autres associations. Et à l'entrée de sa conférence, il dit être distribué ce tract. Et ensuite, ils sont venus à 50 000 troupes dans la Réunion. Ce jour-là, grâce au Saint-Esprit, j'ai pu m'exprimer parce qu'ils n'ont pas osé, cette fois-là, s'en prendre à un malade. Ils étaient surpris déjà de ma présence. Mais le simple fait de dire que le préservatif est dans un taux de fiabilité, et encore, il est très, très modéré. Très modéré. Eh bien, c'est trop. Il ne supporte pas. Bon, bien là, c'est comme quand je rentrais dans un centre d'avortement. On sent d'où ça vient, quoi.
On entend dire tout le temps que les malades du sida sont confrontés à l'intolérance, à l'exclusion, et on a toujours l'impression que cette intolérance et cette exclusion, elles sont le fait de ce qu'on appellerait le bourgeois. Ce que vous nous dites là, c'est un témoignage un peu différent de ce qu'on dit généralement.
Il y a des cas particuliers, certainement. Moi, je parle en mon nom propre seulement, je ne connais pas beaucoup d'autres malades. Mais je sais qu'il y a des cas individuels de rejet et autres, par ignorance. Mais nous l'avons constaté lors du premier sauvetage, où nous avons été déclarés malades. Quand les policiers sont rentrés avec des gants, demandant où sont Monsieur Morin et Monsieur Humbert. C'est quand même symptomatique. Je ne l'aurais pas voulu, puisque je me suis dit, si un de leurs enfants ou un de leurs proches était malade, comment ils réagiront? Ça, c'est triste. Alors, je pense que pour ça, il faudrait quand même dire la vérité. C'est-à-dire, ne pas nier quand quelqu'un, sous prétexte qu'il n'est pas aimé de la classe politique, dit certaines choses qui peuvent déplaire. Si le but de tout le monde, c'est la recherche de la vérité, à ce moment-là, on devrait pouvoir s'entendre. En l'occurrence, c'est pas le cas. J'ai ce tract, j'ai le numéro d'aujourd'hui de présent, qui est avec une première page qui est parlante. Bon, leur but, c'est pas de prévenir, d'empêcher des gens d'être contaminés. On parle pas d'âme, parce que...
Vous parlez des gens de aide et des organisations comme ça.
Oui, ouais. Eux ne parlent pas d'âme, ils parlent de personnes, de victimes, de malades, tout ça. Mais c'est la même chose pour moi. Mais en l'occurrence, leur but, c'est d'avoir le maximum d'argent, je pense, pour pouvoir exprimer leurs opinions politiques, pour pouvoir continuer à mentir aux gens. Mais le plus triste, parce que ça, c'est leur problème, ça a toujours existé, c'est que pendant ce temps-là, il y a des gens qui sont affectés, sans le savoir. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'on va leur dire? La petite jeune fille qui se retrouve dans un centre d'avortement et qui ensuite se retrouve traumatisée toute sa vie, on lui avait dit, mais non, il n'y a pas de problème, tu peux coucher avec qui tu veux, il n'y a aucun problème. Et puis qui s'aperçoit que ben c'était pas un amas de cellules, c'est un petit bébé qu'elle avait dans son ventre. Eh oui. Alors, à ce moment-là, il n'est pas question de juger, évidemment. Mais il y a des gens qui sont responsables de ça. Je prie le ciel de leur être indulgent, mais je pense qu'il y aura des gens qui auront chaud là-haut. Ils n'y arriveront pas, peut-être même. Mais en tout cas, je crois que c'est simplement une attitude de recherche de vérité et de justice, comme dans le cas du sauvetage. Bon, en l'occurrence, dans mon cas personnel... J'en suis à mes procès qui me restent à assumer. Mais matériellement, physiquement, il faut que je fasse que j'arrête. Je me sens plus en état de continuer. Pas à cause du sida, bien sûr, entre autres. Je pense que je peux être utile aussi, peut-être, si Dieu le veut. Dans ce problème-là, Philippe malheureusement aurait pu m'aider. Il est parti. Dieu en décide ainsi, mais j'espère au moins susciter un autre témoin, c'est-à-dire un autre malade qui accepte de témoigner, qui prenne la relève. Parce que je crois qu'un seul, ça peut être un de trop pour ceux d'en face. Qui je le répète, ne cherche pas du tout à prévenir ou autre. Je crois que c'est la preuve. Déplacer 50 personnes et faire un tract diffamatoire et ordurier comme celui-là pour empêcher un professeur de s'exprimer sur un risque de l'ordre de 20-30% à propos du préservatif, j'estime quand même que c'est quelque chose qui est important pour eux. Alors, qu'est-ce qui est important pour eux? C'est pas de prévenir, en l'occurrence. Sans ça, ils se diraient, bon, après tout, on n'est pas d'accord avec lui, mais si, ça peut rendre service. En l'occurrence, on voit bien, tout montre bien que ce n'est pas ça. Tout montre bien que ce n'est pas ça et que c'est toujours les mêmes groupuscules qui sont derrière et qui reviennent à la charge comme des charognards à chaque fois.
Merci Dominique. Rémi, je t'ai demandé de venir ce soir parce que je dois dire que j'avais un peu peur de caler devant Dominique. Mais je voudrais que tu nous dises en quelques mots ce que ça t'a apporté de le connaître.
Bien écoutez, je connaissais Dominique avant de savoir évidemment qu'il était malade du sida. Je l'ai connu notamment au centre Charlier. Et la révélation de ce maladie m'a énormément impressionné. Et en plus, avec son militantisme et son apostolat, on peut dire, particulier par rapport au sauvetage, ça m'a vraiment éclairé et j'ai voulu effectivement le faire connaître d'abord dans présent et autour de moi, et j'estime les auditeurs qui l'ont entendu ce soir peuvent en juger qu'il a beaucoup apporté, surtout dans la conspiration du silence qu'on connaît actuellement et dans cette culture de mort que le pape ne cesse de dénoncer. J'estime qu'il faut faire entendre son message et c'est très important pour nous.
Merci en tout cas de nous avoir fait connaître Dominique par présent d'abord, ensuite par cette radio, et puis je le signale sans aucune arrière-pensée publicitaire, je le dis simplement pour information, prochainement on publiera un entretien entre Rémi Fontaine et Dominique Morin dans le Libre Journal de la France Courtoise, entretien dans lequel il revient un petit peu plus longuement, enfin de façon plus détaillée, sur tout ce qu'il nous a dit ce soir. Et Dominique, je vous remercie d'être venu, je vous remercie doublement, d'abord parce que votre témoignage était capital, et ensuite parce que je sais que vous n'étiez pas très bien aujourd'hui, et vous avez fait un effort pour... Oui, ça lui plaît pas que je dise ça. Alors j'arrête. Merci, à bientôt. Alors, dernière chose, Dominique me demande de faire savoir que si on veut aider les sauveteurs, il existe un comité de défense des sauveteurs, et vous pouvez les aider moralement, vous pouvez les aider matériellement à faire face à tout ce que représente, sur le plan financier, les procès qui leur sont faits, et donc ça s'appelle le comité de défense des sauveteurs, boîte postale 1521, 37015 Tours CEDEX. Boîte postale 1521 37015 Tours CEDEX. Je redonnerai cette adresse. Merci.
On est à l'antenne ? Parce que les deux lampes sont allumées,
oh
la
Dieu.
Rouge et la verte. Ciel. Voilà, ça y est, j'ai corrigé cette erreur. Eh ben, dites donc. Bien, Marc ? Allô, allô ?
Allô, Serge ?
Comment allez-vous ?
Bien.
Vous avez entendu ?
Les oiseaux qui chantent là, devant moi.
Ah, c'est joli, ça.
À quelques mètres.
C'est celui que vous avez mis dans une cage.
Ah non, 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 c'est pas celui-là. J'en ai quelques centaines d'autres qui sont dans le lierre.
Ah oui, c'est bien. Et pourquoi vous en laissez un dans une cage, alors ?
Eh bien, parce que c'est pas un oiseau qui est fait pour la liberté.
Ah bon, d'accord.
Non. C'est un serin. Si je le lâchais, il se ferait manger par tout le monde.
Bon. Bon, alors vous êtes excusé. Marc, est-ce que vous avez entendu l'entretien avec Dominique ?
J'ai entendu la fin de l'entretien, oui. Bien.
Alors, ça tombe tout à fait bien que vous nous appeliez maintenant, puisque vous nous appelez pour nous parler de l'encyclique.
Oui.
Et c'est une encyclique qui traite aussi de cette question-là.
Oui, on peut dire qu'elle en traite même beaucoup.
Oui, c'est pour ça que j'ai dit aussi. Alors, je précise, pour les auditeurs qui ne le sauraient pas, que vous êtes Marc Dehaene, que vous êtes le directeur d'une lettre confidentielle d'information religieuse qui s'appelle Iota Unum, et qui paraît toutes les semaines, et qu'on peut découvrir en envoyant son adresse à la boîte postale 52, boîte postale 52, 7801 Saint-Germain-lès-Sedex, et vous, très gentiment, vous envoyez gratuitement 3 semaines de suite cette lettre, et ensuite on est complètement passionné, on s'abonne, ça marche très très bien. Alors, d'habitude je vous demande de nous donner des extraits de la lettre, mais là ce soir j'aimerais que vous nous disiez plutôt quel est votre regard, comme on dit maintenant, sur l'encyclique du pape, puisque vous représentez, vous occupez une position éminente au sein de la tradition en tant que laïque observateur.
C'est cela.
Et donc
observateur
ça,
et informateur.
Et informateur, voilà. Et donc j'aimerais bien avoir la position d'un représentant de la tradition, d'un observateur et d'un informateur de la tradition sur cette encyclique.
Oui. Alors écoutez, mon impression générale est que cette encyclique est excellente. Je le dis sans réserve, et je pense, je n'ai pas interrogé tout le monde, mais je pense que personne ne peut y trouver à redire, car c'est vraiment un monument. Un monument sur le plan de la défense de la vie, sur le plan aussi de la remise en place de la démocratie, telle qu'on la conçoit maintenant. Car vous savez que je ne suis pas démocrate, mais quand on veut faire la démocratie, encore faut-il en respecter les règles et la concevoir d'une façon normale et d'une façon qui soit incontestable. Et le pape, dans cette encyclique, va beaucoup plus loin que son sujet encore en parlant de cette affaire de démocratie et de loi civile s'opposant à la loi morale.
Je crois qu'effectivement, il y a une dimension qui a été curieusement ignorée, d'ailleurs, dans la plupart des commentaires, si on peut parler de commentaires à propos de ces vociférations, des commentaires sur l'encyclique, c'est la dimension tout à fait inattendue, politique, puisqu'il y a une remise en cause de la démocratie, chose qu'on ne peut pas imaginer.
Oui.
Parce que le pape dit que la démocratie a tendance à glisser vers le totalitarisme. Alors il ajoute, pour probablement éviter de choquer trop de monde, que c'est en dépit de ses principes, alors qu'en bonne logique, il aurait dû dire en raison de ses principes.
En raison de ses principes.
Mais à ce détail près, c'est quand même tout à fait étonnant de lire plus d'un siècle après Pie IX que la démocratie conduit au totalitarisme.
C'est très intéressant. Alors, voyez-vous, il y a deux points, à mon avis, très importants dans cette encyclique. Il y a d'abord le fait, et ce sont ces deux points qui mettent en rage l'adversaire, et l'adversaire est multiple. Ces deux points, c'est d'abord qu'il revient et qu'il traite à fond le sujet de l'avortement et de l'euthanasie en engageant en engageant non pas son infaillibilité, comme a précisé le cardinal Ratzinger, car il n'est pas possible d'engager son infaillibilité alors que Dieu a déjà parlé, a déjà engagé la sienne.
Oui, ce serait superfétatoire. Hein.
Donc le pape ne va pas...
Il n'y a pas besoin de monter en chair pour dire tu ne tueras point.
C'est cela. Donc Dieu l'a déjà dit au début et ça suffit, on n'a pas à revenir là-dessus, sauf pour le rappeler et sauf pour l'expliquer. C'est ce que fait Jean-Paul II, mais il prend un style et il adopte des phrases qui sont de la tonalité de l'engagement d'infaillibilité lorsqu'il dit par exemple par conséquent avec l'autorité conférée par le Christ à Pierre et à ses successeurs en communion avec tous les évêques de l'Église catholique je confirme que tu es directement et volontairement etc. est gravement immoral. Et il revient, il utilise à trois reprises une formule de ce genre, hein, avec l'autorité, c'est pourquoi, avec l'autorité conférée par le Christ à Pierre et à ses successeurs, en communion avec les évêques, je déclare que l'avortement direct, c'est-à-dire voulu comme fin ou comme moyen, constitue toujours un désordre moral grave.
Et c'est-à-dire que cette insistance avec laquelle il se réfère, enfin il se met en position de successeur de Pierre, il rappelle sa situation successeur de Pierre,
oui.
Ça revient à pratiquement en appeler à l'infaillibilité au moins successorale.
Oui, si vous voulez, il n'engage pas son infaillibilité parce qu'il n'y a pas lieu, mais il engage son autorité.
C'est ça, il dit, c'est pas moi qui dis ça simplement parce que c'est mon idée à moi, Wojtyla. Je dis ça parce que c'est un principe qui n'a pas changé depuis la plus haute antiquité.
C'est ça. Et parce que je suis le pape,
successeur de Pierre, désigné par le Seigneur.
Donc il y a ça qui a mis en rage tout le monde, enfin tout le monde, sauf un certain nombre quand même, mais enfin tous ceux qui aboient. Et il y a, en effet, il y a la deuxième affaire, c'est cette affaire dont nous parlions tout de suite, de la démocratie, qui est un sujet très sensible pour nos contemporains, lesquels sont absolument pris dans ce système. Et ils n'imaginent pas, il faut qu'ils réfléchissent pour comprendre que ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Cette critique de la démocratie va très loin, puisque d'abord le pape critique ce qu'elle est, disant, avec des accents qui rappellent un peu dans le ton Saint Pédis, dans ses encycliques, que c'est un ton un peu moqueur, en parlant d'une société qui devrait se limiter à enregistrer et à recevoir les convictions de la majorité. Oui. Et que par conséquent, il ne devrait reposer que sur ce que la majorité elle-même reconnaît et vit comme étant moral.
Je vais dire une chose qui peut paraître choquante, mais je voudrais votre avis là-dessus. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'au fond, cet aspect de l'encyclique est plus important que tous les autres? Parce que on pourrait dire que il n'y a pas de surprise dans le fait que le pape prenne des positions conformes à la morale traditionnelle.
La position, il l'avait prise depuis très longtemps. Voilà.
Bon. La surprise, c'est cette incroyable position à propos de la démocratie, à propos de la loi du plus grand nombre. Enfin, il y a une remise en cause, là, très très directe, des fondements des sociétés occidentales actuelles.
Oui, oui, oui. Regardez cette phrase, par exemple. En réalité, la démocratie ne peut être élevée au rang d'un mythe, au point de devenir un substitut de la moralité, ou d'être la panacée de l'immoralité.
C'est extraordinaire, c'est une réponse à tout ce que disent Chirac et Balladur, par exemple. Aujourd'hui, quand on dit à Chirac et à Balladur, bon, vous prétendez que vous êtes catholique, mais comment pouvez-vous soutenir la pérennité de la loi Veil?
Oui.
Alors, ils répondent, mais parce qu'il y a deux choses, il y a la position de l'Église, et puis il y a la loi démocratique du plus grand nombre, qui en France a voté cette loi, donc nous, on doit appliquer la loi du plus grand nombre, et le pape leur dit, c'est pas vrai.
Il leur dit, ce n'est pas vrai, et il le leur dit à ce moment précis de l'histoire, peut-être une coïncidence, mais enfin juste avant les élections, il les met devant cette réalité qu'ils semblent ignorer totalement ou qu'ils veulent ignorer.
Le cardinal Tiandoum, qui était interviewé récemment sur RFI, a parlé de cet évangile, pardon, de cette encyclique, et
il a, lapsus révélateur, et il a dit une chose curieuse, il n'a pas dit aussi, d'une façon aussi brutale, mais le sens de son discours c'était ça, il a dit ça, cette encyclique est une encyclique écrite pour l'Occident et tout spécialement pour la France.
Oui.
Et donc l'hypothèse que vous émettiez, que c'est peut-être pas tout à fait par hasard qu'elle paraît en ce moment, n'est pas une hypothèse à rejeter d'office.
Elle a quelques fondements.
Ouais.
Alors, il explique bien que la démocratie est un système, et non, un instrument et non pas une fin. Alors que c'est ce qui paraît à entendre non seulement les hommes politiques d'aujourd'hui, mais l'homme de la rue, même très évolué, très cultivé, parce qu'il n'a pas réfléchi à autre chose. Mmh. Maintenant, au gré des fluctuations d'un vote, on peut tuer ou on ne peut pas tuer.
Oui. C'est-à-dire c'est la démocratie contre la loi naturelle. Le grand nombre contre la loi naturelle. Les principes fondamentaux de la loi naturelle qui s'imposent à tous les hommes dans le monde entier et dans toutes les époques, c'est-à-dire le décalogue au fond. Il n'y a pas de peuple qui refuse le décalogue, mais je crois même chez les aborigènes les plus arriérés, le principe du « tu ne tueras pas » est appliqué. Avec toutes les exceptions traditionnelles, c'est-à-dire la guerre, l'assassinat et autres, mais ils reconnaissent quand même qu'un assassinat n'est pas quelque chose de bien.
C'est ça.
Enfin, bien pour la première fois, le grand nombre...
Que, en freignant cette loi, elle est naturelle.
Oui.
Elle fait partie de la conscience. Donc, ils ne l'ignorent pas.
À ce propos, d'ailleurs, il faut lire, parce que ça se lit très vite, et puis ça rafraîchit bien, bien, bien les idées, le petit précis... de la loi naturelle que vient de rédiger Jean Madiran,
oui, oui.
Qui est paru chez Diffra Livre. Il faut lire ça, c'est court, mais c'est extrêmement précis,
c'est
comme
court,
son nom l'indique.
Et puis on sait ce que ça veut dire.
Ça rappelle bien des choses fondamentales.
Ce sont les choses fondamentales qu'on oublie le plus facilement.
Une dernière question, Marc, à propos de l'encyclique. Bon, vous l'avez lu, évidemment. Est-ce que vous avez l'impression que la langue en est moins difficile que les textes précédents du pape? Parce que je veux dire que les textes précédents du pape, il y avait des moments où on avait tendance à piquer du nez sur la copie.
Oui.
Est-ce que c'est plus clair, plus...
C'est beaucoup plus clair.
Oui.
Alors, c'est... déjà, Veritatis Splendor était clair, mais plus lourde, plus compliquée. Ici, ça se lit très facilement. Le reproche que j'avais fait à première vue, c'est que c'était... scandaleusement long, si je puis m'exprimer ainsi. C'est extrêmement long, hein. Ça doit faire 200 pages environ, pas loin. Et or, elle est lisible. Alors que les textes précédents avaient le tort d'être longs, diffus et dans un style que l'on dit slave. Je veux bien que ce soit un style slave.
Merci pour les slaves.
En tout cas, c'est un style auquel on était pas habitué. Et il s'agit de ceci, c'est que, vous savez, depuis Redemptor, Hominis, etc., on voyait la pensée du pape qui revenait sans cesse comme un serpent qui... enfin, la comparaison...
Oui, l'image n'est peut-être pas idéale.
N'est pas idéale. Mais quelque chose qui revient sur soi-même et qui déroute l'esprit occidental.
Oui. Hein,
on dirait que les slaves...
Ça, c'est très slave. Ça, c'est tout à fait slave.
Oui.
Exactement. Cette façon de cette pensée lovée sur elle-même, c'est très typique. J'ai à côté de moi le Polonais Blanza qui me regarde d'un air intrigué, mais c'est pourtant ça, mon cher Michel, j'ai le regret de vous le dire.
Oui, alors on a ici donc un texte clair et qui est intéressant d'un bout à l'autre. Bon, c'est une chose à noter, parce qu'une encyclique pontificale, c'est souvent un pensum. Alors, autre chose, c'est que on n'a pas trop, ou presque pas, de ces faux fuyants de style qu'on trouvait précédemment.
Oui.
Vous savez, les encycliques d'autrefois avaient ceci, de même que les actes conciliaires et tout cela avaient ceci de particulier. On vous disait une chose, on vous disait ce qu'elle est, et puis ensuite ce qu'elle n'est pas. Comme ça, il n'y avait pas moyen d'interpréter.
Oui.
C'était comme ça. On était sûr de ce qui était dit.
Voilà.
Et on ne pouvait pas s'évader.
Pinailler.
Lorsque, ici, je vois une chose, un petit mot, enfin, je ne vais même pas le citer parce que c'est tout à fait hors sujet, mais c'est une citation de Vatican II, parce qu'il il cite beaucoup Vatican II, une citation de Vatican II qui est propre au style Vatican II, justement, qui néglige et qui ne veut pas utiliser cette contre-indication, si vous voulez, permettant de rester de comprendre bien la vérité énoncée. Hein. Mais dans l'ensemble de l'encyclique, on ne trouve pas ça.
Donc, si, pour résumer les choses, vous en recommandez la lecture.
Ah oui, oui, oui.
Bah, écoutez, on vous obéira. Alors, on peut lire l'encyclique Evangelium. J'ai un trou.
Vité.
Pourtant, hein. Non mais je viens de subir un choc assez lourd là. Evangelium Vité. Et puis si on veut, on peut aussi lire la lettre. Ce n'est pas du même tonneau. Ce n'est pas Eius Dem Farine. Mais c'est bien aussi. La lettre confidentielle de Marc Dem, qui s'appelle Iotaunum, qui est beaucoup plus courte que l'encyclique. Mais pas sur la totalité de l'année.
Non. Oui, vous y trouverez d'ailleurs des choses très intéressantes dans le prochain numéro. Hein,
comme d'habitude.
Ce qu'on fait maintenant à l'école libre.
Ah ben, autre sujet que nous avons évoqué ce soir. Donc, si vous voulez connaître Iotaunum, que ce n'est pas déjà fait, vous écrivez boîte postale 52, 7800 Saint-Germain-les-Cédex, et vous recevez cette lettre qui est bourrée d'informations intéressantes. Merci, mon cher Marc.
Merci à vous.
Président de Coq, bonsoir.
Bonsoir.
Je reçois ce soir le président Basile de Coq, qui vient, comme il est déjà venu une ou deux fois à cette émission, en général, après la période de un mois et demi, au cours de l'année pendant laquelle il travaille, il vient nous présenter les résultats de ce travail, et puis ensuite il retourne à son hibernation. Et alors là, je ne sais pas ce qui vous est arrivé, mais c'est stupéfiant ce que vous avez produit d'un seul coup. Là, on vous n'entendait plus parler de vous, sauf pour les amateurs de télévision qui vous ont vu dans une émission fugace.
Et bien nommé, autant en emporte le temps.
Autant en emporte le temps, vous avez été d'ailleurs emporté.
Au bout d'un mois, avec Ardisson lui-même, et Frigide Barjot.
Et Frigide Barjot.
Alors ce qui m'est arrivé, qui justifie... Madame de Coq, née Barjot, ce qui justifie mon absence, c'est que, entre temps, j'ai convolé en juste noces avec Frigide Barjot.
Alors, je dois dire que le résultat de ce convolage est tout à fait positif, car vous avez rajeuni, vous êtes bronzé, vous faites un très beau président à vie.
Bronzé, ça doit être les antibiotiques. Ah, sinon, je suis déguisé en jeune parce que j'ai un pull de...
De Lucla.
De Lucla, oui.
Qui est l'université californienne de Los Angeles.
Bravo.
Voilà.
Dès qu'on est revenu de notre Viaggio di Nozze en Italie, on s'est mis à préparer un bouquin sur les présidentielles, dont auquel vous êtes au courant.
Oui, que j'ai entendu causer d'eux.
Après, on a enchaîné sur un numéro du magazine Jalon, le magazine du vrai et du beau. Et puis maintenant, on est en train de préparer notre meeting unitaire de soutien à tous les candidats à la présidentielle.
Alors là, je suis obligé de vous dire, président...
Mais soyez franc, je serai
une
courageux.
Une fois de plus, je vous prends en flagrant délit d'autocontradiction.
Ça m'étonne.
Ben oui, je regrette de le dire, mais vous avez eu une idée à laquelle j'adhère totalement, qui est d'organiser un grand meeting unitaire de soutien à tous les candidats, qui se déroulera donc le lundi 17 avril 1995 à 21h précises, sur le Divan du Monde, 75 rue des Martyrs.
Le Divan du Monde, c'est une boîte branchée qui vient d'ouvrir, je dis ça pour les gens moins branchés que moi, ça rime.
L'entrée est gratuite jusqu'à 21h30, après on vous fait payer.
Ah oui, on taxe les retardataires.
Vous
payez
pour sortir d'ailleurs aussi, probablement. Et il y a marqué open bar toute la nuit.
Open bar, en allemand, ça veut dire bar ouvert gratuit. Ça veut dire qu'on peut se saouler la gueule après le meeting.
Boisson correcte, tenue à volonté.
Oui, ça c'est une erreur d'imprimé.
Comme d'habitude. Alors,
c'est pas tout. Avec oui. la participation d'artistes, d'artistes engagés.
Engagés, mais pour la soirée seulement. C'est précisé, quoi. Alors, donc, vous organisez un meeting de soutien à tous les candidats.
Oui, parce que vous savez que Jalon n'a jamais mis son drapeau dans sa poche. Et donc, on soutient tous les candidats dès le premier tour. Oui. Et à mon avis, on n'en soutiendra plus que deux la semaine prochaine.
Et encore, parce que maintenant, si je me réfère au numéro de Jalon qui vient de sortir, il y a déjà un candidat qui n'a plus votre soutien. C'est Monsieur Balladur, dont vous montrez une photographie
accablante,
accablante, à la une, accablante. À sa droite, Monsieur Léotard ou ce qu'il en reste. À sa gauche, ses collaborateurs, effectivement, c'est le cas ou jamais de le dire. Donc à sa gauche, Monsieur Sarkozy. Et vous, le titre de Jalon, c'est Fusillons Balladur et ses collabos. Chirac humilié, Chirac martyrisé, mais Chirac libéré. Donc on peut se demander si au fond il n'y a pas une espèce d'engagement quand même de Jalon, oui, au-delà du meeting unitaire.
Oui, mais c'est-à-dire notre engagement est simple. On aurait fait fusillon Chirac si Balladur était en tête dans les sondages. Ce que vous appelez engagement, c'est tout simplement de l'opportunisme. Il semble que mon ami Jacques Chirac sera élu président, et donc j'ai intérêt à me mettre bien avec lui. Et compte tenu des quatre derniers sondages, la dernière rafale qui vient de paraître, je pense qu'on peut raisonnablement engager le pari que le président Balladur ira dans les poubelles de l'histoire dans les trois semaines à venir. Bien. Donc nous, on prépare l'avenir, et comme on est un journal essentiellement consensuel, en un seul mot quand même, on soutient Jacques Chirac parce qu'on vole au secours de la victoire.
Mais voilà. Pas seulement pour ça, il y a aussi une espèce d'adhésion intellectuelle, car je vois qu'à la une,
c'est expliqué, oui.
Avec Sim et Finkielkraut, tous unis derrière Jacques Chirac, donc on sent que finalement, l'espèce de dans l'afflux d'intellectuels, qui ont décidé de soutenir Jacques Chirac, vous tenez votre place.
Vous savez, je suis très reconnaissant personnellement à Jacques Chirac d'avoir finalement fait de cette campagne présidentielle un lieu de débat d'idées, parce que c'est quand même lui qui a organisé le débat d'idées, et si la France, comme nous le souhaitons depuis quelques jours, se dote de ce président Jacques Chirac, eh bien la cohabitation qui avait été institutionnalisée une fois en 86 et l'autre fois en 93 sera désormais intériorisée, c'est-à-dire que le débat gauche-droite se déroulera désormais entre les deux hémisphères du cerveau de Jacques Chirac, c'est-à-dire nulle part.
Alors, je dois la vérité de dire que, malgré tout, ce numéro de Jalon, qui est chiracien d'une façon éhontée, donne quand même la parole à d'autres. Et je le vois dans le courrier, par exemple, il y a une lettre de Monsieur Gilles D, 69 Caluire,
oui, oui.
Qui apporte un soutien total à Jean-François Horry, et donc qui dit que c'est le Marc Pajot de la politique française, à la barre de son radical. On sait bien qu'il n'a aucune chance, mais on veut voir jusqu'où il va aller. Et alors là, suit une très très belle lettre que je ne lirai pas parce qu'elle est un peu longue, mais qui est pleine de lyrisme et de tendresse pour Jean-François Horry, qui est effectivement un des candidats les plus sympathiques dans la mesure où il est justement pas candidat.
Ce sont les meilleurs qui partent.
Voilà, c'est les meilleurs qui sont. Alors, on va pas parler trop longtemps de Jalon.
Non, juste pour dire que la couverture a été interdite à l'affichage.
Bien
parce
sûr.
Que comme Balladur est toujours au pouvoir et que les sociétés d'affichage sont un peu frileuses, eh bien elles n'ont pas osé accepter cette affiche. On a mis à la place une affiche que je dirais émasculée, où il n'y a plus le visuel, on ne voit plus Balladur au poteau. Avec ses...
Mais quand même le mot d'ordre, fusillon
Balladur. Ah non, ils ont refusé aussi le mot d'ordre, on a juste mis avec Jacques Chirac et Patrick Sébastien, libérons la France et jugeons le traître Balladur. Mais l'affiche a été interdite.
On est dans une démocratie quand même, il faut le rappeler.
Oui, on n'a même plus le droit de fusiller Balladur.
Oui, c'est n'importe quoi. Alors, je précise quand même que si vous ne lisez pas Jalon, si vous n'avez pas les moyens de l'acheter, vos 25 francs, c'est peut-être un peu beaucoup pour les chômeurs, vous pouvez le voler. De toute façon, pour vous, c'est la même chose
oui,
que NMPP Perron.
Je suis pas hostile.
Et si vous avez le temps de le lire avant d'être attrapé par la police, de le lire aussi peu que ce soit, il faut lire l'éditorial de Basile de Kock. Qui est président à vie et directeur de, et qui s'intitule Prosopopée du dissensus, et ça rien que pour le titre déjà ça valait le coup d'en parler. Et puis après il y a plein de choses passionnantes que je ne vais pas développer.
Mais c'est-à-dire que c'est vrai qu'on donne la parole à l'ensemble des courants de Jalon, qui d'ailleurs s'exprimeront aussi à notre meeting, et qui soutiennent tous les candidats. Alors on a rajouté bien sûr depuis notre camarade Jacques Cheminade, qui a remplacé Horry dans le rôle du 0,2%. Et on aura un orateur cheminadien.
Qui est soutenu par quelle tendance?
Ben, on est en train de créer la tendance parce que on ne pensait pas que ce grand aberrant allait réunir les 500 signatures.
Mais lui, il pensait probablement pas d'ailleurs.
Ah, non. Mais c'est-à-dire si, c'est avec le fric qu'il a piqué à la vieille dame atteinte de maladie d'Alzheimer qu'il est allé soudoyer 500 maires aberrants.
C'est quand même plus facile de voler une vieille dame malade de la maladie d'Alzheimer que, par exemple, le garde du corps de Jean-Marie Le Pen.
Oui.
Au moins, on est sûr que M. Cheminade est avisé.
Mais ce que je souhaite pour notre ami Jacques Cheminade, c'est que il ait un peu plus de voix qu'il n'a eu de signature quand même. Donc c'est pour ça qu'on va le soutenir.
On sait déjà que de toute façon il n'aura pas parmi ceux qui lui ont donné ses signatures. On sait qu'il y en a trois qui ne voteront pas pour lui. Ils l'ont écrit. Cela dit, plaisanterie mise à part, je trouve que je connais Cheminade depuis des années.
C'est un ami personnel.
C'est pas vraiment un ami personnel, mais c'est quelqu'un que je connais et. Je dois dire que l'idée qu'il ait volé une vieille dame me paraît absolument ahurissante. C'est absolument impossible. Il a probablement, effectivement, eu recours à des méthodes pour financer son mouvement, qui sont les méthodes utilisées par tous les partis politiques. Et je crois vraiment pas que c'est aux socialistes de reprocher à Cheminade d'être malhonnête. Entre nous, il y a quand même un minimum de pudeur observée. C'est un type honnête, quoi. Voilà, il a probablement pas inventé l'eau bouillante, mais politiquement, je veux dire.
Oui,
c'était un type honnête, indiscutablement. Alors, voilà, maintenant revenons, redevenons sérieux.
Il serait temps.
Il serait temps. Vous avez publié, donc, on a parlé de Jalon, on a parlé du grand meeting unitaire de soutien à tous les candidats, ce qui est quand même une des plus belles idées depuis la fameuse manifestation contre le froid, au métro glaciaire, Verglas, assassin, Mitterrand complice, c'est une chose que je n'oublierai pas.
Non, mais maintenant, on peut pardonner au président Mitterrand, puisqu'il a annoncé qu'il allait se retirer dès le 10 mai.
Oui, c'est gentil de sa part. Alors qu'il aurait pu rester jusqu'au 11, quand même.
Non, il avait le droit de rester jusqu'au 21.
Ah, 21. Il nous fait crédit de 11 jours.
Ouais, ouais, ouais.
Ce qui donnera 11 jours de plus à Chirac pour faire des bêtises, c'est ça?
Ah, comment des bêtises? Vous n'avez pas lu Jalon, vous?
Pardon, oui, c'est alors, ce que j'ai lu, en revanche, c'est un document extraordinaire que vous publiez, qui s'appelle « Les dossiers secrets des renseignements généraux », qui a été volé sur le bureau de Charles Pasqua, c'est marqué dessus, donc on peut le dire.
Ouais.
Alors c'est stupéfiant, c'est une copie conforme des dossiers des renseignements généraux.
Oui, oui. C'est-à-dire, c'est en fait, à chaque fois qu'il y a une présidentielle, le ministre de l'Intérieur demande à ses renseignements généraux de colliger tous les renseignements qu'ils peuvent avoir sur les candidats à la présidentielle. Et alors, nous avons en quelque sorte démarqué ça, c'est-à-dire nous avons imaginé ce que pourrait faire les RG, et nous avons reproduit une série de 250 vrais faux documents portant sur Balladur, Chirac, Jospin et les autres, tout ça avec les tapés à la machine Underwood sur papier en tête d'RG et avec les commentaires manuscrits de Charles Pasqua, et on y apprend des tas de choses intéressantes, comment Jacques Chirac est passé de 14 à 26% en suivant les sondages, comment il a fait pour plombé Balladur, avec des photomontages le montrant dans une position équivoque avec Jean-Marie Le Pen.
Donc là, et pas seulement d'ailleurs.
Entre autres, oui.
On a là une démonstration des méthodes en usage dans les milieux politiques, car les renseignements généraux, revus et corrigés par vous, publie les documents, les faux documents de cette campagne dégueulasse, a dit M. Pasqua.
Et Simone l'a dit aussi.
Simone aussi, oui. Alors, on voit par exemple une photographie qui est un montage grossier, il faut le dire, mais quand même, ça montre bien les méthodes en usage dans ce milieu. Balladur, Bousquet, le scandale, c'est l'essor du Limousin qui publie une photo de Monsieur Balladur en compagnie de cet ami de François Mitterrand qui s'appelait, puisqu'il a été arraché à notre affection, Monsieur Bousquet.
Oui, mais je vois pas ce qu'il y a scandaleux. Bousquet a le droit d'avoir plusieurs amis.
Oui, mais enfin, il aurait fallu qu'il choisisse, quand même. C'est un peu, je sais bien qu'en tant que franc-maçon, il est copain avec tout le monde, mais quand même, fréquenter à la fois Mitterrand et Balladur.
En réalité, vous avez bien compris, il s'agit d'un montage fabriqué par Chirac.
Un montage grossier, je l'ai dit, fabriqué par Chirac pour nuire à
Édouard.
À Édouard.
Avec le succès qu'on connaît, d'ailleurs.
Et ça a réussi. Est-ce que par hasard, Édouard aurait fait la même chose pour nuire à Chirac?
Vous parlez du dossier de Jacques Chirac.
Oui. Je parle de des trucages qui ont été, des montages qui ont été faits par Balladur pour descendre Chirac, par exemple. Il y avait un projet de publication dans un journal, la première interview de Carlos. J'aime beaucoup Carlos dans sa prison. J'ai beaucoup d'estime pour Jacques Chirac.
Ou alors immédiatement, parce que ça c'est effectivement sorti dans
Info Matin.
Alors on voit dans nos dossiers que Balladur réagit aussitôt et il écrit à Carlos à prison de la santé en lui disant je suis très flatté de voir que des étrangers comme vous s'intéressent à la vie politique française et malgré votre situation actuelle, sachez que le gouvernement français vous donnera tous les moyens pour pouvoir vous exprimer en toute liberté avec la pertinence qu'on vous connaît, etc. Et ensuite, bon, ça donne suite à toute une sorte de magouille.
Oui, qu'on imagine très bien.
C'est comme pour le pauvre Jospin qui est l'objet d'une série de montages des renseignements généraux où on le voit en train de se saouler dans une plage de Saint-Tropez, ensuite dans une boîte échangiste avec Florence Ray et finalement en train de se faire une fixette à l'héroïne. Évidemment, il s'agit d'un faux grossier, de la même manière que les circulaires de Jean-Marie Le Pen adressés aux électorats qui habituellement ne votent pas pour lui.
Je dois dire que bon, moi, je suis très sensible sur cette question de sur la question de Jean-Marie Le Pen pour des raisons personnelles, mais il y a un document qui est implacable dans dans le dossier que vous publiez. Vous publiez les lettres que Jean-Marie Le Pen aurait envoyées, prétendez-vous, mais par l'intermédiaire du Cercle national des Français israélites, par l'intermédiaire du Cercle national des Français musulmans, du Cercle national des Français échangistes, du Cercle national des défenseurs des animaux, du Cercle national des chasseurs, du Cercle national des Français non-voyants, c'est des lettres en braille, du Cercle national des Français malentendants, du Cercle national des familles catholiques. Vous voulez dire quoi par là, pour être précis?
Eh bien, je crois que c'est résumé dans la note des Hergé. Il s'agit pour Jean-Marie Le Pen d'étendre son électorat potentiel à des secteurs de l'opinion qui, traditionnellement, ne votent pas nécessairement pour lui, comme par exemple les Français gays ou les couples échangistes. Donc, il leur adresse des mailings ciblés, comme on dit dans le jargon électoral. Ou quand il écrit aux Juifs et aux Arabes, évidemment, il leur dit pas exactement la même chose. Ou quand il écrit aux parents catholiques et aux Français gays.
Mais c'est aussi sérieux que la photographie de Balladur se faisant une fixette à l'héroïne.
Non, c'est pas Balladur, c'est Jospin.
Pardon,
c'est
pas grave.
Oui, c'est aussi sérieux. Oui, c'est-à-dire, par exemple, moi, j'ai été assez convaincu par la lettre du Cercle national des Français gays, où Jean-Marie Le Pen explique que l'homosexualité a toujours été un phénomène de droite depuis Socrate jusqu'à Jacques Chazot, en passant par Mishima, et depuis la Légion thébaine jusqu'à la Légion étrangère, en passant par la SA. Voilà, et qui promet la préférence nationale dans les bars, les saunas et les backrooms.
Eh bien voilà, nous terminons cette émission en nous faisant encore beaucoup d'amis. Merci, Président de Coq. Je rappelle que le lundi 17 avril, vous tenez un meeting unitaire de soutien à tous les candidats, 75 rue des Martyrs. Et vraiment, ça c'est une adresse qu'on ne pouvait pas inventer.
Merci d'être venu.
Je donne tout de suite l'annonce ou j'ai le temps de faire une petite... Rien du tout. Bon, très bien. Ici Radio Courtoisie. La radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101, au Mans sur 98.8. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech, diffusé en direct le mercredi 12 avril, 1h, et en différé jeudi 13 avril, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Pour nous aider à demeurer libres, vous pouvez adhérer à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 250 francs. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Nous adresserons 3 exemplaires de chaque publication aux adhérents qui auront décidé de cotiser pour une somme supérieure à la redevance de télévision. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez les cassettes correspondant aux 3 heures de l'émission pour le prix global franco de port de 130 francs ou 95 francs seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle l'adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Merci d'être resté avec nous. Je présente mes excuses aux amateurs de Michel Blanza, que j'ai privé de parole, mais la semaine prochaine, c'est promis, si Dieu veut, vous nous ferez un grand numéro sur les anacolutes, invraisemblances et autres perles de presse. À la semaine prochaine, que Dieu nous garde.
La honteur.